ça qu'il y a des ces exercices, tous ces tableaux là qui sont là. Ces tableaux, c'est métacognition, métamotivation. C'est des exercices pour voir à chaque fois sur un point, comme ça, tous partout, vous voyez, et en fait, c'est des exercices d'évaluation, c'est-à-dire, peut-être ce serait bien qu'un jour on fasse ça. On fait des exercices d'évaluation. Donc on regarde à peu près dans une quarantaine de directions, on peut s'exercer la vie contemplative de lumière. Quarantaine de directions, on les prend un après l'autre. C'est génial, Victor Frankl, vous savez. Donc il y a quatre grandes zones où la lumière peut s'exprimer spirituellement à l'état de pure lumière, indépendamment donc du moi, indépendamment indépendamment de l'appréhension, indépendamment de l'intellect possible, et indépendamment, si tu veux, de l'intellect ordinateur, si tu veux. La lumière. Alors, on fait des évaluations, on se pose des questions, on va se poser 40 questions. Chacun va se noter de 0 à 20 pour savoir s'il l'a fait une fois, s'il a vu ça une fois avec sa lumière, s'il l'a vu parfaitement, s'il l'a vu à moitié, s'il l'a vu un peu, s'il n'a rien vu, s'il n'a pas envie de le voir. Donc 0, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas envie de le voir. 1, c'est je ne l'ai pas vu, mais je voudrais bien le voir. 2, c'est il me semble l'avoir vu, mais je voudrais mieux le voir. 3, c'est je l'ai vu. Et 4, c'est quand je veux, je le vois. Et là, on fait les exercices, on fait une évaluation. Et à la fin, tu multiplies 40, tu fais un total sur 160, tu vois. 4 fois 40, ça fait 160, on va sur 200, puisqu'il y a aussi le 0, hein, donc tu fais un total sur 200, et tu regardes, c'est à la moyenne. Et les résultats sont assez spectaculaires. Les résultats sont très spectaculaires. Voilà. Là, on fait l'exercice par exemple sur Jésus qui sort du temple, on vient de regarder, puis c'est le figuier, alors voilà, on fait un tour de table comme ça, et on fait des oui, j'ai vu, ouais. Ah, je vois bien, pourquoi c'est à cause de. Ouais, c'est ça, il y a un phare qui s'est accueilli, c'est par là qu'il y a du pisser dessus, puis pas derrière l'âme. C'est pour ça que je suis là. Zéro. Tu mets zéro. Tu mets zéro. C'est même pas. Alors, tu fais les tableaux. Alors, il y a les tableaux pour les vérités naturelles de lumière spirituelle. Naturelle, métaphysique, vous voyez, hein? Comme ça, on a une évaluation déjà sur les potentialités de la lumière naturelle, humaine. Et puis après, on fait un deuxième tableau, une deuxième évaluation pour les vérités de lumière surnaturelles. Voilà, c'est plus pour les chrétiens. Et on fait l'évaluation. Puis on voit que, il est urgent de faire vite, une agapé prématos surnaturelle de la lumière. Tu es gentissime, hein?
C'est bon.
Sinon, qu'est-ce que je suis fatigué? Au bout d'une heure de prière, j'ai crevé, hein? Il faut au moins 10 heures de sommeil. Hein? Parce que ça bouillonne tellement dans le cerveau. Tandis que si tu es contemplatif, tu peux prier 8 heures. C'est comme si tu avais prié 20 heures, dormi 20 heures, il n'y a pas de problème. Dans la perfection, tu es dans le repos. Et l'homme, l'enfant, la femme, ce sont des êtres parfaits, puisqu'ils sont créés par Dieu. Nous sommes dans un état de perfection sur le plan spirituel. Et, c'est pour ça. Peut-être vous pouvez vous amuser à faire un. Faites-les puisque vous l'avez, hein, ce document. Donc vous pouvez le faire. Étape 4. Voilà, vous avez trois exercices. Étape 4, de la guérison des ténèbres, de la logothérapie à la théothérapie ou verbothérapie. Hein, puisqu'on avait hier, on avait terminé sur l'exercice pneumato-surnaturel de l'étape 3. Hein. Donc c'est la page d'après, c'est puisque vous aviez bien mis la marque. Hein, vous avez bien mis la marque. Vous aviez bien mis la barre. Où est-ce que vous êtes maintenant? Qu'est-ce que vous attendez? C'est à moi de faire la main.
Je regardais le copier.
Vaut mieux en rire qu'en pleurer, hein, je suis d'accord.
Oui, mais c'est comme tout, quand même. C'est pas grave, hein. Alors, attendez, je vais vous aider.
Voilà, et vous avez plein d'exercices d'évaluation, là. Et faites-le, parce que peut-être vous pouvez le faire deux par deux, si on peut le faire deux par deux, comme ça, tout seul, bon, deux par deux, on peut le faire deux par deux. Ben voilà, ah oui, je vois ce qui s'est passé. Ah ouais. Il s'est passé quelque chose sûrement quand. Ah oui, tout petit. Ah oui, il s'est passé. Vous voyez, il y a une première évaluation. C'est le moment de lumière. C'est plus ma conception jusqu'à maintenant. On peut sortir à la surface. C'est à cause de ça qu'il y a le premier questionnaire. Pour faire monter, hein, ces états de lumière depuis le début, hein, étape 1, questionnaire, premier questionnaire.
Premier questionnaire, c'est le...
État des lieux de mes situations néogéniques en sommeil. Mes situations de lumière, néogéniques, c'est la lumière purement spirituelle de mon intelligence, purement spirituelle. De temps en temps, j'ai vu. J'ai pas compris, j'ai vu. J'ai vu Dieu, j'ai vu. J'ai vu. Qu'est-ce que qui j'étais? J'ai vu la création. On a tous eu des moments de lumière spirituelle. Tout le monde, ça. Tout le monde. Mais c'est en sommeil. Donc, grâce à ce questionnaire, il est fait pour ça. Grâce à ce questionnaire, on fait, et on met dans la case, qui correspond. Ah, ce moment de lumière, bah quand même, si on a une cinquantaine d'années de vie, je veux dire, il y a de quoi remplir toutes les cases. Vous voyez ? Bon, ça c'est bien parce que du coup on se dit, mais oui, bien sûr, de temps en temps, quand même, il y a quand même une éruption. Il y a quand même une éruption de lumière une fois de temps en temps, parce que de temps en temps, ça sort quand même. Ah. Et c'est pour ça qu'il y a ce premier questionnaire qui aide à ça et qui permet de regarder un petit peu dans un dialogue, hein, ce qui s'est passé dans chacune de ces expériences de lumière. Et du coup, on regarde quelles sont les valeurs et quelles sont les impressions. Quelles sont les formes de lumière, à quoi elles correspondent, hein? Donc page 3, 4 et 5. Bon, on ne va pas le faire, là, on n'a pas le temps, mais... Là, on n'a pas le temps. On peut... Bon, j'ai quand même envie de rentrer dans cette lumière. J'ai envie de quand même... J'ai pleine possession en moi-même de ma lumière, de mon intelligence. J'ai envie d'être Quel sens, j'ai envie d'être un homme, j'ai envie d'être humain sur le plan de la lumière quand même. Pas envie d'être avec les bêtes et avec les brigands, c'est-à-dire les démons, dans mon corps spirituel de lumière. J'ai pas envie que la lumière messianique déclare la vérité, à savoir que le figuier ne donnera pas son fruit. Attends qu'il se dessèche tout de suite. Alors j'ai pas envie, moi j'ai envie que je choisisse un choix. C'est un choix. Je choisis la lumière. Je choisis la carité. Je préfère rester dans le mensonge si je suis psychotique. C'est ça, hein, cristallisation, déni, déplacement. Il y a des cristallisations qui sont extraordinaires, qui sont somatiques quelquefois. Ça, vous l'avez vu d'ailleurs à Domanova. Je me rappelle à Domanova. On commençait la messe. Et puis l'évangile, très bien. Et puis on commence à faire la méditation. Bon, bien sûr, la méditation était souvent assez longue. Bon, assez longue. Ça faisait plus que 10 minutes, voilà. Bon, c'est une belle affaire.
Bon. Plus qu'un quart d'heure.
Alors, il y en avait deux ou trois. Aussitôt que tu commences la méditation.
Ouais.
Dès que la méditation était finie, c'était le Samo Sapiens, j'étais complètement réveillé. C'est psychotique ça.
Ah oui.
Surdité. Inhibition, méchamisation. Vous connaissez Serge, qui quelquefois sert de garde du corps, hein, Serge, vous vous rappelez de Serge? Serge, il était génial, ses élèves humains, il est toujours ensemble, il vient m'aider encore de temps en temps. C'est souvent même bon, mais en 96, je l'ai vu pour la première fois. Pendant 12 ans, à chaque fois que je faisais le prêtre, disons, pas moi, mais à chaque fois que le prêtre faisait... enseignement, enfin, c'est Jésus quoi. Moi je sais que c'est Jésus qui parle. Bon, lui, dans la seconde où je commençais, dans la seconde où je terminais, pendant 12 ans, et comme ça, c'est qui empêche d'entendre. C'est pour ça que dans la prière de délivrance de la France, vous avez vu cette nuit, on interdit aux démons de rendre sourd, de paralyser, d'inhiber, parce qu'il faut qu'il entende ce qui doit être dit, de manière à ce qu'il obéisse quand on lui demande de partir. Mais dans la psychose, il y a évidemment la possibilité d'une pénétration diabolique en plus de la psychose. Et, la ténèbre. Le monde des ténèbres, c'est pénible, le monde de la ténèbre. C'est pénible, le monde de la ténèbre. C'est pour ça qu'on devient grégaire aussi. Les gens qui sont dans le péché, qui sont dans... finalement un peu dans l'adultère, de permissivité morale, tout ça. Vous regardez quand ils ont 50, 60, 70 ans, ils sont grégaires. Hein. Quelle grégarité, ils sont grégaires. Il n'y a pas la respiration du contemplatif, quoi. C'est le ricanement du démon. Il dit à Dieu, voilà, regarde, voilà ton image ressemblance, regarde ce que j'en ai fait, regarde ce qu'ils en ont fait du don que tu leur as parfaite pour eux-mêmes. Voilà ta perfection, dis-donc. Drôle, hein. Tu peux te faire de toi, Seigneur. Hein. C'est la vengeance du démon, ça. Hein. De voir des gens qui sont sans intelligence, sans vie spirituelle. Que tu es une foi. Alors, il faut qu'il y ait une oxygénisation de la lumière. Alors, donc au moins qu'il y ait au moins cet exercice là, vous voyez, qui est l'étape 3, où je dis mais je veux retrouver cette lumière. Je veux retrouver cette lumière.
De toute façon, les steaks, c'est ça, de toute façon. Les mots, ils se regardent, en passant par avec les histoires de steaks pour rencontrer les gens.
Dans les secs, bien sûr, les secs.
C'est un puits pour eux. C'est un puits pour eux.
C'est un puits sans fond, oui, bien sûr. Page 6. Hein. Page 6. Tu y es, tu y es, Francis, tu y es, tu y es. Non, 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 tu y es, là, voilà, sur ton pouce droit, voilà. Non, attends, 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 page 6, Francis, page 6. Page 6. Page 6. Page 6.
Moi, c'est plus gros.
Ah, que au moins, on a le courage. On a eu le courage de regarder toute notre vie, alors ça c'est toute une anamnèse, pour essayer de voir dans la lumière. Il y a eu des moments de lumière. Peut-être que vous vous en rappelez pas dans votre intelligence cérébrale. Votre intelligence cérébrale, vous vous rappelez pas des moments de lumière. Mais n'empêche, ces moments de lumière, ils ont été. Il y a quelque chose, je me dis, mais oui, mais c'est sûr. C'est sûr qu'il y a quelque chose, je sais, que j'ai vu quand j'étais enfant dans le sein de ma maman. Je ne me rappelle pas, mais je sais. Vous voyez la différence? Alors, 0, 1, 2, 3, 4. 0, c'est. Non, je ne sais pas. Je ne vois pas ce que c'est. Et puis, ça ne m'intéresse pas du tout. Je n'ai absolument pas le désir de le voir. 0. 1, je ne vois pas, mais je ne demande pas mieux que de voir. Déjà, c'est. 2. Ah. Oui, bien sûr. Quand vous aviez 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est pas dans votre mémoire, hein, vous vous en rappelez pas. Hein. Mais bien sûr. Oui, bien sûr, il y a eu. Je suis né. Je me rappelle pas. Donc ça m'intéresse pas. Je me rappelle pas. C'est de l'imagination votre truc. Je veux pas rentrer dans votre truc. C'est de l'imaginaire. 0. 0. 1. Bien sûr qu'il y a quelque chose. Bien sûr qu'il y a quelque chose. Je le sais. Et il y a quelque chose qui demeure. Vous savez, une fois que vous avez touché quelque chose dans la lumière.
Est-ce que ça vient de le faire jusqu'à un certain âge, par exemple jusqu'à 10 ans?
Oui, vous faites ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que c'est le mieux de faire dans l'étape 2. Là. On fait toute sa vie, puis c'est tout. Et on voit, de toute façon, c'est expliqué hein, comment on fait l'exercice d'évaluation. Mais ayant fait cette espèce de... Oui, mais je sais, oui. Je vois qu'il y a quelque chose, oui. Je ne me rappelle plus, mais je vois que c'est pas un pressentiment, vous voyez, c'est presque.
Il faut demander.
J'éprouve bien, oui. La première fois que j'ai vu, moi personnellement, c'est ce que j'ai marqué là ici, hein. C'est ce que j'ai marqué là, je pense. 1956, pic du midi, extase de gratitude et d'élection divine. Alors, ben ça, j'avais quoi donc? J'avais 5 ans. Bon. C'était pic du midi. la mer. Ça, c'est ça. Là, non seulement il y a eu la lumière, mais en plus, je m'en rappelle. Les deux. Donc, c'est pour ça que j'ai mis. J'ai vu la création, j'ai vu le créateur, j'ai vu Dieu dans la création en Dieu, et Dieu en moi, et Dieu dans la création, et Dieu dans la création, Dieu et la création dans moi, et moi dans la création et en Dieu, en voyant le speak du midi là. Et puis, il n'y a que de la lumière. Là, je me rappelle, j'avais 5 ans. Ah. Que la personne humaine sur la Terre qui n'a pas eu quelque chose de ce genre. Mais peu importe quel âge, vous marquez l'année. Chacun son truc. Hein? Parce que dans les pages qui suivent, après, toutes les cases sont remplies. Forcément, il y a une progression dans la logothérapie pneumato-surnaturelle. Donc, peu importe. Donc, tout ça pour dire, oh, mais oui, bien sûr, il y en a au moins un. Non. Et puis, ce moment-là, ah, ça y est, je vois ce que c'est. Où la lumière est spirituelle. Et c'est la mienne, c'est moi. Et là, je vois que je suis. Ça, je sais que je suis lumière. Je peux tout à fait reprendre ça et avec ça, faire avec cette intelligence-là, regarder vers Dieu. Regarder vers Jésus. Regarder vers l'espérance. Regarder vers le royaume accompli. Regarder vers la vérité tout entière. Voir la vérité tout entière. Je propose ça de mon intelligence humaine. Normal. Du coup, j'imagine pas, oui, il va y avoir certainement beaucoup de tremblements de terre, des volcans qui ont des éruptions, tous les gens vont trembler de peur, ils vont pisser à la grandeur de leur maison, je sais, par terre. Il ne s'agit pas d'imaginer. Il s'agit de voir. Un minimum d'intelligence d'enfance. Pourquoi ? Parce que quand Dieu crée une intelligence, c'est une lumière d'enfance, c'est une lumière, c'est une simplicité, c'est une pénétration. On est vraiment la même lumière que Dieu pour pénétrer les choses. C'est la même. C'est dans les trois puissances, c'est la seule puissance qu'on a en partage avec Dieu, la lumière spirituelle. C'est pour ça que c'est notre plus haute dignité. Jamais renoncer à la vérité. Oh, la vérité n'existe pas. C'est ce qu'il a dit, le Gaulois. Le gros Gaulois de Narbonne, qui était à Jérusalem, avec toutes ces légions gauloises françaises qui étaient à Jérusalem. C'était que des Français qui étaient à Jérusalem, à l'époque du Christ. Ponce Pilate et toutes ses légions, c'était des Français. Il n'y avait pas un seul Arménien, il n'y avait pas un seul Hongrois, il n'y avait pas de Sarkozy, il n'y avait personne. Il n'y avait que des Français. Pas de Tunisiens. Pas de Péruviens. C'était des Français, la Ponce Pilate, alors Ponce Pilate, mais qu'est-ce que c'est que la vérité ? Jésus, que si je suis la vérité. Pourquoi Jésus, il a dit ça avec son cerveau ? La recherche, le désir, la connaissance, l'union avec la vérité. Ça, ça fait partie de la respiration d'un être humain normal. Mon arrière-grand-mère était géniale. Bien de voir quelqu'un qui respire un peu dans la lumière, et c'est quand même pas. C'est, évidemment, tu se mettais en colère parce que ça énervait de voir ses fils, ses petits-fils, tout ça, qui était pas contemplatif. Quoi. J'ai dit, mais c'est pas possible. Elle n'était pas miséricordieuse. C'est une mère. On ne demande pas une mère d'être miséricordieuse, on lui demande de donner la vie, la vraie vie. Bon, voilà. Donc la lumière. Alors j'ai envie quand même de retrouver. J'ai envie. Alors c'est pour ça qu'il y a cet exercice 3 là. C'est étape 3, page 6. Déblocage des anxiétés et inhibition neurogénique. Ah, comme ça, on aura fait au moins les 3 premières étapes, c'est bien. Comme ça, on pourra passer à la mémoire ontologique cet après-midi, c'est bien. Ouais. Mais vous voyez que c'est seulement les préliminaires à l'exercice de matos naturel de la lumière. C'est seulement on aura fait que les 3 préliminaires. Bon, c'est déjà bien. C'est déjà bien qu'on puisse situer. Voilà. Ça, c'est ce qui est le plus. Ma lumière d'intellect agent m'appartient plus. C'est plus moi que tout le reste. Mon corps, mon âme, tout ça. Ce qui est de plus à moi, c'est ça. C'est cette lumière. C'est cette intelligence contemplative de lumière. Rien n'est plus à moi que ça. Là où l'avoir, l'existence, l'être, l'esprit et la plénitude de soi se trouvent un, c'est là. Pas dans le corps, ni l'âme, ni ce que tu as, ni tes propriétés. L'avoir, le plus. C'est ça, elle est là. Attends, si je pouvais. C'est ça que je cherche, je veux, j'aime, je veux, je choisis de rentrer dans la vérité de la lumière. Et dans la lumière de la vérité. Bah, le contraire, c'est les idéologies, les propagandes. Il n'y a pas de vérité. Bah, chacun sa vérité. C'est ton opinion, ça. C'est ta vérité. C'est ta vérité. C'est bon, ça. Hein? Bon, c'est ta vérité, oui. Oui. Ah bon, et toi, tu as une autre vérité, toi. Oui. Bah ouais, bah, chacun sa vérité. Hein. Normal, comme ça. Il y a la vérité de l'islam, il y a la vérité de. Des chrétiens, quoi. Ça, on va bien, c'est chacun sa vérité, quoi. Et puis, il y a la vérité de la lama, quoi. C'est pareil, chacun sa vérité, quoi, ou toi. Il y a la vérité sur Scan, la vérité de. C'est la loi, c'est pas. C'est chacun sa vérité, quoi. Il n'y a pas de vérité. Ah non, c'est sûr que ça. Oui. Mais si tu es intelligent, tu sais très bien que la vérité existe. Si tu es humain, tu sais bien que la vérité existe. Parce que tu. Au moins une fois, tu l'as vu.
Tu sais.
Tu as touché, tu as pénétré, tu l'as assimilé, tu en as vécu. Tu as encore, tu. Si c'était encore quelque chose. Le bien en toi, c'est parce que tu l'as vu au moins une fois. Tu l'as assimilé. C'est encore aujourd'hui. C'était il y a 30 ans. Plus jamais j'ai fait un autre nouvel exercice de vie spirituelle de lumière. Vous vous rendez compte? C'est génial, les exercices neurogéniques.
Oui, cette lumière, la lumière de la vérité, elle est, du moins, elle est dans la première cellule. De notre conception.
Ah ben, dès le départ, on est lumière. Donc dès le départ, on voit, on sait. on voit la lumière de notre existence, on voit la lumière de Dieu qui est en train de nous créer, on voit la lumière de l'unité des deux, c'est-à-dire de moi dans la lumière et de la lumière de Dieu en train de créer, mais la lumière aussi de Dieu qui est en train de créer tout ce qui existe en même temps qu'il me crée. Donc je vois aussi la lumière de l'unité de tout ce qui est créé dans ma lumière et ceci dans mon corps, et mon corps est donc récepteur en direct de tout ce qui est créé par Dieu, en direct, et je le vois, je le sais, et j'en suis récepteur dans la lumière de mon corps spirituel originel. Je reprends possession de mon corps originel dans la lumière. C'est la vérité. C'est la vérité. Mais ça, je sais ça. Je le vois. Je l'ai vu. Je l'ai regardé. J'ai dit oui. Je l'ai contemplé. Je l'ai assimilé. Et j'en ai vécu. Et j'en vis encore quelque part. C'est ça, les très grandes profondeurs de la vie spirituelle. Parce que les très grandes hauteurs des cieux, c'est autre chose. C'est pour ça que je vous dis, le Père, il se trouve dans les très grandes profondeurs. Dans les très grandes hauteurs des cieux, et aussi dans l'omniprésence, les trois. Si vous passez de l'un à l'autre, au troisième, ça y est, vous voyez très bien, vous vous rappelez dans la lumière le Père. Vous touchez la lumière de la première personne de la Sainte Trinité. Vous le touchez, et vous aurez la vérité du Père, et de la personne du Père. Et vous en vivez, vous vivez avec le Père. Et vous êtes comme le Fils à ce moment-là. C'est la mystique naturelle. Surnaturellement aussi. Si déjà naturellement vous en vivez, si en plus vous en vivez dans la plénitude surnaturelle, de la plénitude de grâce reçue en monde surnaturel, de participation divine directe en extension, en compréhension et en substance, à ce moment-là, c'est fou quoi. C'est complètement géant. C'est contemplatif. C'est sûr, ça. Alors, on fait un exercice d'évaluation. Est-ce que vous voyez la différence entre la vérité tout entière de ce qui est intérieur à la paternité incréée éternelle de Dieu, et puis la vision de lumière surnaturelle de la pénétration de la paternité incréée de Dieu? Vous voyez bien la différence entre les deux? Vous voyez deux expériences totalement différentes. Et celle-là, zéro. Hein? 2, 3 ou 4. Et puis à la fin, on fait la somme. Un jour. Ça m'étonnerait que vous puissiez le faire tout seul, ça je pense. Ouais, c'est pas si difficile. Pas si difficile, il faut quelqu'un qui vérifie. Si vous avez une fois, j'ai fait ça à Nîmes, non pas à Nîmes, à Montmorin là-bas, enfin en Auvergne, vous étiez là. Ah, il y avait une personne, on faisait l'évaluation, il y avait une personne. Elle se mettait quatre à chaque fois. Ah, c'était à hurler de rire. Je ne dirais pas qui c'est, elle est toujours vivante. Elle s'imaginait qu'elle avait quatre. C'est vraiment. Je crois que c'était le comble des dérives négatives de la conscience de culpabilité, le comble. Là, vraiment... Il y avait quelqu'un qui ne voyait pas. Hein. Tout le monde était là. Bon.
Et pourquoi se mettait quatre lorsqu'elle était gentille?
Elle se mettait trois. Elle s'évaluait à quatre sur toutes les questions. Hein. D'évaluation d'un génique de la lumière. Le conte de la mystico-dingo, vraiment. Alors donc, si je ne sais pas qui c'est, de toute façon, vous ne pouvez pas le deviner.
Hein. Non, mais c'est pas ça.
Non, mais parce que je ne vois pas pourquoi.
C'est une évaluation. Non, c'est pas une auto-évaluation, c'est une évaluation de génie. Hein, c'est ça, là. Bon. Bon. Mais je comprends très bien ce que je faisais, parce qu'elle en avait déjà entendu parler. Du coup, j'ai entendu parler, oui, je vois, j'ai déjà entendu parler, j'ai compris. Pour moi, c'est pas nouveau, alors quatre. Ouais. Mais entendre parler, et puis toucher, pénétrer, la vérité tout entière, l'assimiler en vivre, c'est quand même pas la même chose. Hein. C'est ça.
Parce que ça ne veut rien.
Il y a des gens qui vous disent mais je sais, j'ai entendu tout ça. Je sais, mon père, j'ai déjà entendu tout ça. Je connais tout ça. Bon. Je me mets quatre, donc je sais. Hein? Non, il faut vraiment se dégager des de la ténèbre, des dérives négatives. Hein?
Ce qu'il y a, c'est qu'on a sûrement eu des choses, des manifestations, sans apercevoir, et puis d'en parler, juste en revenant, ça nous revient.
Et vous en revient une là ?
Plusieurs.
Vous voyez ?
Oui, mais je crois.
C'est
que...
ça, c'est ça le technogénique. On en parle.
Je me suis dit, quand ça s'est passé, c'est pas mon imagination, mais je savais pas ce que c'était. Et à force d'essayer de m'en souvenir, j'en ai trouvé.
Ah, alléluia, gloire à Dieu. Comme ça, vous allez pouvoir commencer à écrire dans le tableau. Alors, c'est bien.
On verra tout.
Ça s'appelle anamnèse, ça. Hein? Quand vous avez anamnèse, vous allez remonter à la surface des moments spirituels. Anamnèse, ça s'appelle anamnèse, c'est ça que ça veut dire. Hein?
Comme on ne comprend pas ce qui se passe, on se dit, je ne sais pas ce que c'est, et on oublie. On vit avec
ces chats
et
sans pression. Bien sûr, c'est pour ça. Donc, mais dans une situation limite, tac, ça vous revient.
Oui.
C'est pour ça que quand vous êtes en train de mourir, tout le moment de lumière de votre vie vous arrive dans un espace plus grand, de 1/10 de seconde.
Chut. 1/10 de seconde.
Et la nanesse se fait dès que votre cerveau s'éteint. La lumière pour faire. Pour avoir tous ces moments de lumière de votre vie, de toute votre vie traversée dans cette lumière-là. Bon, alors là, évidemment, vous espérez que quelqu'un prie pour vous, pour que le prêtre vienne, que vous donne un sacrement, que vous puissiez revenir, et cette fois-ci vivre dans la lumière. Vous donnez un an de plus. À ma grand-mère, 5 fois. 5 fois. Alors, au bout d'un an et demi, elle est retombée et morte à nouveau. Prêtre est venu. Voilà. Elle a rouvert les yeux. C'est reparti pour 2 ans. Une troisième fois. Une quatrième fois. Ma grand-mère. Mon arrière-grand-mère.
Et qu'on porte ça. Si on revient sans sacrement de malade, c'est pareil, non? Parce que ma mère m'a raconté que j'ai 2 sacres grand-mères qui étaient toujours malades, et qui, lui, qui était mort, et après elle revenait, quoi.
Oui, bien sûr, ça peut, bien sûr. Mais elle s'est fait un plat, puis je trouve que ça revient. Ça vient des forces de la nature, puisque l'âme, elle est encore là. Donc la lumière est encore là. Et encore la vie. Situation néogénique en sommeil. Alors, donc, vous voyez, la seconde étape de notre entrée en logothérapie, ayant eu le courage de scruter les sens transcendantaux de notre vie en sommeil, va consister à faire sauter les blocages les plus énormes et le plus spécifique de notre situation personnelle, de la mise en route du réveil de notre vie de lumière, et de notre respiration libre dans l'identité contemplative de lumière. Elle commencera par une prière métaphysique naturelle, de choix conscient. J'entre dans la lumière. Elle fera 2 exercices ensuite, un exercice d'initiation paradoxale et de déréflexion. Comme ça au moins, ça vous... Vous ne serez pas les idiots quand on vous parlera de la logothérapie. Viktor Frankl, vous aurez vu au moins les 3 grandes premières étapes. Hein. Alors, capacité d'autotranscendance. J'ai une capacité naturelle, depuis 9 mois avant la naissance, d'autotranscendance dans la lumière. Je l'avais en plénitude, je ne l'ai pas eu petit à petit. Je ne l'ai pas eu petit à petit, pas du tout. Je suis devenu infiniment plus bête que quand j'étais. Du point de vue de la lumière, de la vie spirituelle, de la connaissance, de voir, de savoir, de pénétrer. Alors c'est pas normal quand même ça. C'est pas normal qu'au 21e siècle, 3e millénaire, les enfants des hommes commencent avec ça et deviennent de moins en moins ça. Alors que normalement c'est fait au contraire pour devenir de plus en plus ça. La vie humaine normalement. Un arbre, normalement, il grandit. Ça, le phénomène contemporain que l'Apocalypse décrit, d'ailleurs, quand Dieu, Jésus et Marie montrent ça à Saint Jean dans l'Apocalypse, juste, vous voyez, le quatrième saut de l'Apocalypse, là, jusqu'au cinquième saut. On est en plein dedans là. Incroyable. On doit de plus en plus lumière, quoi. Ça paraît idiot à dire, mais c'est évident. C'est l'évidence. Hein. Bon, allez. Donc, allez, je choisis de rentrer à nouveau et de plus en plus dans la perpétuelle. Et dans la lumière de la vérité, et dans la vérité de la lumière, et dans l'au-delà de l'unité des deux. Ça y est, ça m'appartient, c'est ma plus grande puissance, ça. Ma capacité de vie maximum, c'est ça. Alors, on va le lire ensemble, vous voulez ? Je fais cette prière devant l'univers, devant moi-même, devant le monde et le temps de l'histoire. Utilisez à votre lumière pour ça. Quand on fait ça, quand on lit ça, utilisez votre lumière. Vous ne l'avez pas fait, je suis sûr. On recommence à zéro. Vous ne l'avez pas fait, j'ai senti que vous ne l'aviez pas fait. Donc on recommence à zéro. Pardon Seigneur, c'est pas leur faute. Je fais cette prière devant l'univers, devant moi-même, devant le monde et le temps de l'histoire. Devant l'absolu, devant l'acte pur, devant l'éternité, devant l'origine et la fin accomplie de tout ce qui existe, devant le Père. Devant le Créateur,
Noté.
On note si vous avez noté, qu'est-ce qui s'est passé là? Au moment où on est passé de Père à Créateur.
Une réaction allergique.
Hein?
Peut-être que c'est le choix.
Devant les créatures spirituelles, tout ce qu'il y a de saint dans les cieux, je choisis avec vous et uni à vous de m'orienter librement vers un but autre que moi-même. Je choisis et je prie autant qu'il est en mon pouvoir de le faire, de m'ouvrir, d'élargir mes capacités à transcender mes besoins immédiats en voyant plus loin et au-delà. Ça, c'est Victor Frankl, plus loin. Nous, on peut rajouter au-delà, parce qu'on est métaphysicien quand même. Aidez-moi et accompagnez-moi dans ce choix que je fais en prière de prendre des distances avec moi-même et avec mon monde fermé sur mon univers personnel. Je décide, comme vous, de me dépasser et de m'auto-distancer. J'ai compris et j'ai la volonté de ne plus admettre de me laisser imposer n'importe quoi par moi-même. C'est un stylo, ramassez vite votre stylo. Ne vous inquiétez pas. Situation névrénique en sommeil, à quel moment est tombé ce stylo?
Ah, ben j'ai pas remarqué.
À quel moment, notez, à quel moment, mon stylo est tombé, à quel moment, à quel moment, je déployais mes jambes, à quel moment, on lisait, à quel moment, Monique, je déployais mes jambes. À quel moment, Françoise a croisé les jambes, à quel moment.
Il ne faut pas croiser les
jambes. À quel moment, mes jambes ont bougé, et puis... Ah, j'ai fait ça. C'est... Repérez bien. C'est un moment précis. Hein. Là, vous voyez,
ouais.
Justification. Déplacement. C'est mon dos. C'est pas ça, c'est mon dos. Justification, déplacement. Vous avez vu, là?
Vous pouvez vous répondre.
Voilà. Alors, on continue. Alors, aidez-moi. Aidez-moi et accompagnez-moi dans ce choix que je fais en prière de prendre des distances avec moi-même, avec mon monde fermé sur mon univers personnel. Je décide comme vous de me dépasser, de m'auto-distancier. J'ai compris et j'ai la volonté de ne plus admettre de me laisser imposer n'importe quoi par moi-même. Mes exigences égoïstes et impures, mes caprices compulsifs et adolescents, mes replis incessants d'excitation, d'exaltation stupide, de dépression et de mécanismes de défense, mon cinéma, mes fausses certitudes, mes illusions commodes, je vais y renoncer devant vous. Me voici selon l'appel du Logos, de la sagesse et de la sainteté pour me distancier de moi-même. Je le prends avec humour et en riant de moi-même. Ne me prenez plus au sérieux dans mes enfermements. Je ris avec vous et je m'en détache avec joie. Aïe, louange. Il faut que j'ouvre à votre présence et à votre acquiescement une porte d'entrée à la transcendance de moi-même. je prie, oui, et je vois qu'il convient que je me permette enfin de me dépasser moi-même dans la lumière. Mon existence humaine va se laisser emporter, ravir et se perdre en s'orientant vers une finalité située résolument au-delà de mon monde fermé sur moi-même, vers des êtres humains, vers des êtres divins, vers des êtres saints, vers des êtres susceptibles d'être aimés, vers Dieu lui-même, si la grâce m'en est donnée. Que ce dépassement me permette de prendre des distances par rapport à mes problèmes, qu'il me favorise et contribue à mobiliser toutes mes forces humaines pour réaliser les projets qui revêtent dès aujourd'hui à mon esprit une signification particulière à mes yeux. Ce qui compte en effet, ce n'est pas de réaliser un projet quelconque, humanitaire ou spectaculaire, ou objet d'admiration générale, mais un projet imprégné d'un sens profond et vrai. Qu'ainsi je sois capable de transcender le drame de mes blocages personnels en tout genre, que je vive en lien avec mon être profond et avec tout ce qui est profond en vous et en tous, par l'élargissement de mon esprit dans la lumière et par la réalisation des valeurs spirituelles de ma vie quotidienne. Donc vous, c'est qui? Vous, c'est l'univers. C'est moi-même dans la lumière. C'est le monde et le temps de l'histoire, c'est l'absolu, c'est l'acte pur, c'est l'éternité, c'est l'origine, la fin de tout ce qui existe, c'est le Père, c'est le Créateur, c'est les créatures spirituelles et tout ce qu'il y a de saint dans les cieux. C'est ça, vous. Hein? C'est génial cette prière de mystique naturelle. Hein? Hein? Elle reprend un petit peu les quatre grands axes de la respiration, nos géniques de lumière, immatériel de notre puissance contemplative. Hein? Alors, on tourne la page, on arrive à la page 7.
La page combien?
La page suivante. Voilà, exercice d'initiation paradoxale. Alors, évidemment, ça des. C'est des noms barbituriques, hein, des titres un peu, c'est des titres un peu, faut pas, ça fait rien, c'est parce qu'il faut bien faire un peu de snobisme. Enfin, faut plein la vue à ceux qui sont restés à des trucs très très bas, psychanalyse de Lacan, Jung et compagnie. Névrose neurogénique, ils sont là, bon, névrose neurogénique. Alors, l'initiation paradoxale, c'est à Auschwitz qu'il a commencé à trouver ses... Quand on est dans une situation limite, c'est l'état paradoxal par excellence. C'est le moment de faire un exercice pour entrer en possession de soi-même. Hein? Alors, c'est quoi l'exercice d'initiation paradoxale? Et ça.
Je regarde pas, c'est bon.
C'est avant l'étape 4. On est toujours dans l'étape 3.
D'accord.
Donc l'exercice d'initiation paradoxale encourage le patient, parce que nous on est des malades de la lumière. Nous sommes des malades de la lumière, alors on est des patients, c'est la médecine noogénique. Noos, noogénique, nos, c'est du grec, nous, c'est l'intelligence spirituelle pure. L'intelligence humaine, spirituelle pure, c'est le nous. C'est en grec, on dit le nous. Hein? En latin, on dit intellectus, et puis, sinon, l'intelligence, telle qu'on la comprend nous aujourd'hui dans le langage courant, c'est ratio. Intellectus, le nous, et ratio.
Agent, ça veut dire quoi?
C'est l'intellectus, c'est la lumière. Agent, ça veut dire en acte. C'est-à-dire en accomplissement, en ouverture, en perfection, en plénitude. Acte, c'est tout ça.
Ratio, c'est en disant que la raison.
Pardon?
Ratio, c'est plutôt en disant que la raison.
Ah oui, voilà. Ratio, c'est l'intelligence telle qu'on le comprend dans le langage courant en français. Donc en latin, c'est intellectus ratio. En français, on est obligé de dire intelligence, c'est-à-dire raison, ratio. Intelligence en français, c'est ça, intelligence. Ah, il est intelligent, ça c'est ratio. La raison. Et l'équivalent de intellectus, c'est pas intelligence, c'est nous. Nous. Noogénique. C'est pour ça qu'il est obligé de dire noogénique. Il est obligé de revenir au grec parce qu'il y a eu une petite chute là depuis deux générations. Donc, l'exercice d'initiation paradoxale encourage le patient à faire et à vouloir qu'intervienne ce que précisément il redoute. Il y a des blocages, si vous voulez. Il y a des blocages. On s'est mis dans des situations impossibles. À quel moment s'est tombé?
Oui, on a des situations impossibles. C'est la vision.
Oui, ça c'est la base. Oui, mais c'est ça, il était juste sur le bord. C'est pour ça qu'on vous fait raison. Quand vous faites raison. Après la communion, par exemple. À un moment donné, au bout de 5 minutes de raison, il faut bouger le bras. Il faut bouger le doigt. Je sais pas pourquoi, vous faites comme ça. Mal au dos, là. Hein. Mais on vous croit que j'ai mal au dos. On va vous amener un fauteuil.
Non, c'est bon.
C'est vrai? Alors, on s'est mis dans des histoires de blocage et. Ah, du coup, à chaque fois que il y a quelque chose on est reconfronté au paradoxe, il y a un mouvement de qui se fait. Dès que vous avez un mouvement, tout de suite, ne vous laissez pas détourner par un bruit extérieur au moment où on parle de ce qu'il faut dire. Dès qu'il y a un mouvement, le mouvement. Il peut être somatique, il peut être aussi un mouvement à l'intérieur, quelque chose comme ça. Quelquefois, quand on fait, vous entendez, on a raison, vous êtes là, rien ne bouge, ni rien. Et puis d'un seul coup, il fait un hoquet comme ça. Hein? C'est un moment.
C'est la résistance. Le corps résiste à...
Non, c'est l'esprit.
C'est l'esprit.
Pas le corps qui résiste.
C'est l'esprit qui résiste.
C'est qu'il y a un blocage néogénique.
D'accord.
Ce mouvement correspond à un blocage néogénique qui lui-même correspond à une des deux délivrances de la première étape, sentiment de culpabilité négative, ou deuxième, conscience de culpabilité dans ses versants négatifs, qui n'est encore pas encore résolu. Pourquoi ? Parce qu'il y a un péché sur lequel je n'ai jamais demandé pardon. Donc, ce mouvement, c'est génial qu'il soit là, parce que du coup, j'ai un mouvement. Ça y est, j'ai un mouvement. Je prends possession de ce mouvement. Je vois ce mouvement. Je sais qu'il y a ce mouvement. Et ce mouvement n'est pas un péché, c'est pas un péché, c'est un peu, c'est maladroit, c'est, j'ai fait un mouvement, ça a arraché la feuille, j'ai tombé par terre, le truc, c'est pas un péché, mais c'est quand même un mouvement, c'est passé à un moment précis, au moment où quelque chose se disait. Madame, c'est parce que c'était en déséquilibre, c'est parce que c'était justification, déplacement, cristallisation. Mais je ne regarde pas avec ma lumière le mouvement. Je vois le mouvement, je sais qu'il y a un mouvement. Elle dit, mais c'est parce que je suis désolé, c'est parce que je suis nerveux. La nervosité. C'est. Voilà.
Mais qu'est-ce qu'on fait de ça ? C'est ma confession.
D'accord. Alors, donc j'ai un mouvement. On va laisser un petit peu de côté pour l'instant. J'ai un mouvement. Si j'ai un mouvement, c'est parce que. C'est pas une faute, c'est pas. Si, c'est maladroit, c'est embêtant, ça dérange tout le monde, ça ne me dérange pas comme moi-même. Enfin, moi, ça ne me dérange pas, puisque c'est autogène par rapport à moi. C'est un moment d'intérêt, donc quelque part, moi, ça ne me dérange pas, ce moment. Bien sûr, ça peut déranger tout le monde. Quand tout le monde est en silence, je parle, discute avec ma voisine dans ma chambre, etc. Ça traverse tous les murs, par exemple, il y a 15 personnes qui ne peuvent pas dormir, jusqu'à minimum le quart. Ça ne me gêne pas, moi, ce mouvement. Ça dérange tout le monde, mais ça me gêne pas. Moi, ça ne me dérange pas, parce que c'est un mouvement autogène. C'est pas un mouvement néogénique. Je vise personne, personne n'arrive ce genre de mouvement. Parmi nous, mais ça, c'est sûrement pas. Heureusement, enfin, c'est ce béni. Si, c'est vrai. Voilà, donc.
Donc, on n'a pas dormi, là. On est tranquille, on est
resté
jusqu'à 11h quand même.
On l'a bien entendu. Personne n'a pu s'endormir avant minuit moins clair grâce à quoi. Alors donc, et alors.
Tu m'y es pour rien.
Mais c'est un mouvement ça. Mais quelquefois, petit mouvement, je dirais. Quelquefois, des mouvements qui durent 2 heures, c'est pas terrible. Vous voyez, donc, à un moment, il y a un mouvement. Quelquefois, vous avez, bon, quand c'est très gros, quand c'est très très gros, donc, un mouvement de colère. Là, c'est gros, quand même. Un moment d'exaspération qui monte d'un seul coup, ça. Et... mouvement, ça. Un premier mouvement de dépression. Un mouvement. Ah, des mouvements, il y a tout le temps des mouvements. Un mouvement compulsif. Un mouvement compulsif. Oh, je tends le mal de... Ah, tu sais, Nutella. C'est un mouvement, ça, c'est un mouvement. Et puis situation neurogénique en sommeil. Non, c'est purement... Je ne prends que du magnésium, c'est médical. Bon. Des mouvements. Donc, on a toujours des mouvements. Ça. Donc, dès que j'ai un mouvement, ce mouvement, bien sûr, c'est gênant. C'est pas... C'est un peu inhumain, c'est un petit peu... une limite, une maladie, c'est fautif, quelque part. Objectivement, c'est pas bien qu'il y ait un mouvement de haine, qu'il y ait un mouvement de jalousie, qu'il y ait un mouvement d'exaspération, qu'il y ait un mouvement de jugement téméraire, qu'il y ait un mouvement d'imagination, un mouvement compulsif quel qu'il soit. Bon. C'est pas un péché d'avoir un mouvement. Mais c'est la conséquence d'un péché. C'est une conséquence. Donc, guérison de la situation neurogénique d'un refoulement de la lumière, grâce repérable immédiatement dans sa racine, grâce à un mouvement. Ah, j'ai un mouvement, je vois le mouvement, je sais ce que c'est que ce mouvement. Ah, je prends ce mouvement. C'est une conséquence. C'est une conséquence, c'est pas une faute. Ça ne culpabilise pas du tout, puisque justement, c'est pas un péché. Donc c'est très bien, ça tombe très très bien, c'est pas un péché.
Il a limite. Je suis malheureuse.
Ça,
c'est... C'est dur.
Vous croyez que vous êtes là, ici, pour aller aux euros?
J'ai compris. Si j'aurais su, vous
regardez, quand vous faites une session de neurogénique, c'est là, vous pouvez commencer. Chacun, tac, tac, c'est un mouvement, pour son studio, tac. La tête. Tous les mouvements sont des conséquences. Et chaque mouvement correspond à un. Péché, c'est une conséquence d'un péché que je n'ai pas donné. Non, je n'ai pas donné. Je peux très bien ne pas l'avoir oublié. Hein. Ça n'a aucune espèce d'importance que je l'ai oublié ou pas. Ça change rien en fait. Donc Donc exercice. Philosophique, c'est un exercice philosophique, ça, c'est humain. Vous pouvez expliquer ça à des gens qui sont complètement athées. Parce qu'ils ont péché par rapport à la lumière, hein. Ils ont péché par rapport à eux-mêmes, ils ont péché par rapport à l'acte pur, ils ont péché par rapport à l'univers, par rapport. C'est naturel, ça, donc c'est la nature, donc ils ont péché par rapport à la nature métaphysique de toutes choses, dans l'un, etc. Dans la... Bon, donc ce péché existe, c'est un mouvement. Donc, La conséquence. Bien évidemment, je reconnais que. Allez, on va pas faire comme si on était seulement métaphysicien. Nous, on est chrétiens, donc on va aller directement au but. On va pas faire l'exercice naturel correspondant. L'exercice parce qu'on est chrétien, on ne voit pas pourquoi. Ce mouvement, je prends ce mouvement que je viens de faire. C'est ce mouvement-là. Je prends ce mouvement et je le donne. Je donne. Je ne peux pas m'empêcher, je donne ce mouvement. Je donne la conséquence de ce mouvement. D'accord ? Lui ayant donné la conséquence de ce mouvement, il me reste quoi ? Il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus que la racine de ce mouvement, c'est mon péché. Il y a un péché, alors je sais, ma lumière sait, ma raison, ma mémoire intellective, ma ratio ne sait plus ce que c'est, peut-être le sait à peu près, bon, peu importe, on s'en fiche de ça. Mais mon intelligence, mon âme, ma lumière voit, sait qu'il y a une faute qui est origine directement ce mouvement. Donc ce mouvement est donné dans la lumière de la lumière. Je l'ai donné, je l'ai abandonné, je l'ai donné. Je l'ai donné parfaitement. Demandez pardon. Je l'ai donné parfaitement dans la lumière. Quelqu'un qui a été peut faire ça, bien sûr. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui apparaît dans la lumière nosgénique de ma vie? C'est que je vois la faute. Je vois la faute. Je vois la faute qui est à la racine. Et je peux, même si je la vois, même si je ne sais pas, même si je ne peux pas dire exactement c'est telle date, ce que j'ai fait ce jour-là, tatitata, patin coupé dans telle et telle circonstance. Ça, c'est psychotique, ça. Je vois que j'ai fait ça, je ne sais pas plus, j'étais influencé, puis après tout j'avais raison, moi je pensais que c'était comme ça, puis c'était sincère, c'est psy. J'avais mal, je sortais d'une opération. La lumière, il n'y a pas de parole, la lumière, il n'y a pas de... C'est pas un torrent de paroles inutiles, c'est la lumière, c'est direct. Donc je prends la faute, je sais, je vois qu'il y a une faute. Laquelle c'est ? J'en sais peut-être rien, c'est pas grave. J'en sais peut-être rien, mais je prends le péché qui est à l'origine. Et qui a pour conséquence ce mouvement de colère, ce mouvement d'impatience, ce mouvement... de dépression, enfin bref, peu importe. Je prends ce péché, je le déracine de moi, et dans ma lumière, je le donne dans la lumière, née de la lumière, je le donne à Jésus, pour nous, je le donne à Jésus, bien sûr. Je le donne parfaitement. Mais attention, pourquoi est-ce que j'en étais arrivé à ça? Mais parce qu'il y avait des causes. Il y avait des causes spirituelles. Il y avait des causes. Des causes. Des causes. Et oui, bien sûr, il y avait des causes. Et amené à faire ça, et j'ai fait cette faute. Vous voyez, conséquence, péché, les causes, c'est pas le péché. Les conséquences, c'est pas le péché. Et le péché, c'est pas les causes. Cause, péché, conséquence. Alors, je donne d'abord les conséquences, puisque le mouvement est là. Ce mouvement. Puis la racine, c'est-à-dire ce qui vient de moi, ma responsabilité, je le donne parfaitement dans la lumière, et du coup je peux aussi saisir toutes les racines spirituelles de cet péché que j'ai fait moi, par ma participation personnelle. Eh, ça peut venir, j'ai pas à dire c'est à cause de mes parents, c'est à cause de ma généalogie, c'est à cause de. C'est le diable qui m'a pris. Je prends les causes. C'est pendant 10 ans j'ai subi l'influence des propagandes idéologiques immondes de Freud, etc., du situationnisme. D'accord, tout ça. Je prends toutes les causes et je les vois. Je sais qu'il y a toutes ces causes. Comme des racines pénètrent la terre tout entière et ont produit en moi ce péché personnel. lumière, je prends toutes ces causes et je les donne dans la lumière de la lumière. Je demande pardon. Je les enfonce dans le pardon. Je les fais disparaître dans le pardon. Ça va? Une fois que j'ai donné le mouvement, le péché et les causes, c'est pas fini. Si je faisais que ça, j'ai fait beaucoup déjà. J'ai fait beaucoup. D'accord? Attention, ce que je fais dans la lumière, c'est fait. Vous n'allez pas à le faire deux fois. Donc normalement, le problème est résolu. Vous ne devez pas reproduire une deuxième fois ce mouvement après-demain. Vous verrez, il ne se reproduira pas. Si, il se reproduira. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait la quatrième demande de pardon sur laquelle je vais revenir maintenant. Mais ce que je veux dire d'abord, ces trois-là, c'est fait. Vous avez fait cause, choix, conséquence. Rappelez-vous, cause, choix, conséquence. Conséquence, c'est le mouvement. Choix, la cause, déraciné. On n'est pas seul. On n'est pas seul. Pas seul. Ça, vous avez jamais réalisé ça, que vous n'étiez pas seul. Vous n'étiez pas seul dans le monde. Pas seul dans le monde. Le jour où on se trouve devant Dieu, on n'est pas seul devant lui. On est avec tous nos frères. Toute chair depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, toute chair humaine jusqu'à la fin du monde, c'est nous, avec nous, en nous, comme nous. Alors, bien sûr, j'ai fait un choix de péché avec des conséquences, avec des causes, mais ça, ça me fait faire partie, comme on dit dans la Torah, comme on dit dans la tradition juive, justement le figuier, hein, comme on dit dans la tradition juive, c'est je fais partie. Ça fait partie d'un corps mystique, un Yetzer Hara, comme on dit dans les preuves. Un Yetzer Hara, vous avez déjà entendu parler? Le Yetzer Hara. Une communauté de mal, une communauté terrestre de mal. Je fais partie d'un corps mystique qui. Je ne suis pas le seul à avoir fait ce choix pour le même, exactement le même réseau de causes et pour le même type de conséquences. Je ne suis pas le seul à avoir la haine dans certaines circonstances, dans certaines. Pour ce type de choix que j'ai fait et pour le même type de cause. Je fais partie d'une communauté, d'un corps mystique, d'un Yetzer Hara particulier, d'une puissance de principauté déchue, qui fait l'unité de ce corps mystique, de toute chair humaine, qui a fait le même péché. Alors je fais partie. Alors si j'ai donné ça. Je ne suis pas tout seul, les autres. Je suis lié à ce corps mystique quelque part, par un lien d'une marque, la fameuse marque. Hein? Qu'on a vu, je crois, avant-hier, hier matin. Marque sur marque. Marque. Donc je suis encore un lien à cause de cette marque. Hein? Dans le cœur des profondeurs. Et du coup, il faut que je donne. Dans un quatrième temps, toute chair, depuis Adam jusqu'à moi, toute chair de l'humanité qui a été pris par les mêmes mouvements, pour les mêmes choix et pour le même type de cause. Et je donne toute chair dans la lumière de la lumière. Alors à ce moment-là, vous comprenez, si j'ai fait ça, je sais donner, évidemment, en respectant leur liberté, mais du coup, je ne suis plus lié à ce Yetzer Hara là, et du coup, je n'aurai plus jamais ce mouvement. Je serai sorti dans un acte neogénique d'une situation paradoxale. Je me dégonge comme ça, vous voyez, et du monde de ténèbres, et je rentre dans la dignité de la lumière, et voilà. Et en même temps, j'ai aidé les gens qui sont morts depuis Adam et Ève, hein, leur chair est dans la terre. La plupart d'entre eux, on l'espère, beaucoup sont en enfer, mais la plupart d'entre eux sont quand même avec leur âme séparée dans la vision béatifique du ciel. J'espère que c'est la plupart, j'espère. J'en sais rien, il paraît que non. Bon, ben, il y a eu un mouvement là.
Hein?
Vous avez eu un mouvement là, intérieur.
Oui.
Oui. J'ai vu que vous avez eu un mouvement intérieur. Alors, oui.
C'est douloureux ce que vous dites.
Ben oui, vous avez eu un mouvement.
Hein?
Je ne l'ai
pas.
Mais non, mais
ça, ça ne
pas dans le. Ah, mais je l'ai. Oh là, ça se voyait à l'œil nu. Hein, bon. Alors, il y a eu un mouvement. Ce mouvement, vous voyez, toujours pareil. Ah, ce mouvement. À un moment donné. Si vous avez une santé neurogénique, vous allez voir, ça, ce mouvement, vous le repérez, là. Moi je l'ai repéré, donc si vous ne l'avez pas repéré, c'est qu'il y a un problème. Bon, moi je l'ai repéré, donc vous l'avez repéré aussi. Prenez ce mouvement, il y a un PC derrière, vous le tenez. Les causes qui vous ont amené ce mouvement à faire ce choix, un jour, vous le tenez aussi. Et ainsi que toute chair qui aurait le même mouvement que vous depuis que Adam et Ève,
vous le tenez aussi. Qu'est-ce que vous avez dit ?
C'est quatre mouvements, d'accord ? C'est quatre dons de pardon. Je fais ça. Donc, d'accord ? Bon. Adam, Ève, Nathan, Jérémie. Ta vie, ta titre, que vous voulez, etc. Vercingétorix, Astérix, tout ça, tous ces gars-là, bon, Pomélix et compagnie, bon, tous ces gens qui nous ont précédés, bon, et Pénélope et tout ça, Ulysse et tout, bon, les Grecs, et les Gaulois, les Juifs, tout ça, tous ceux qui sont là, qui sont morts, ils portent encore dans la corruption de leur corps qui a pénétré la terre. Cette marque. Donc c'est sous ma responsabilité néogénique de arracher cette marque d'eux et de la mettre dans le pardon de la lumière née de la lumière. Et c'est comme ça que petit à petit l'humanité va préparer toute chair qui s'est corrompue dans la terre, libérer toutes les situations du Yetzirah à être en affinité avec la résurrection de la chair.
Corps
oui, mais ça c'est naturel, c'est naturel. Vous voyez, ici je suis dans un mouvement de vie naturel. Hein. Le corps rédempteur, c'est surnaturel. Alors, encore plus sur le plan surnaturel, bien sûr. Donc, vous voyez, donc le mouvement, cause, choix, conséquence. La conséquence, c'est le mouvement. Je donne. Je donne le choix de péché que j'ai fait. Dans cette lumière-là, hein, attention, cette lumière de ma lumière. Et je la plante dans la lumière née de la lumière. Hein. Ça va, vous voyez. Bon, pour nous, on sait bien que c'est Jésus. La lumière née de la lumière. On le dit bien dans le credo, lumière née de la lumière. Vrai Dieu, né Dieu, vrai Dieu, engendré. Et puis sous la superbe venue du Saint-Esprit, tac. Et le mouvement est parti. À quel moment il est parti?
Vous avez dit il n'y a personne qui est dans la vision béatifique.
Il y a beaucoup
en encore.
C'est
quand elle a réussi. C'est affreux ce que vous avez dit.
Oui, parce que je parle ici en session néogénique, donc en ma sagesse naturelle, c'est sûr. Il n'y a pratiquement pas beaucoup qui sont pas en enfer. En philosophie naturelle, ça c'est sûr.
Et si ces mouvements n'ont pas été. Parce que puisque vous parlez des couches successives de personnes qui sont. Dont les corps sont encore. Parce que je ne sais plus comment vous l'avez formulé, ça m'a fait penser à nos ancêtres. S'ils n'ont pas corrigé ça, on le porte encore, nous, alors. C'est un héritage.
Non, écoutez, vous portez vos mouvements à vous. Non. Portez.
Non, mais les
c'est autre chose. C'est autre chose. Prenez ce qui est dans, sous votre autorité.
D'accord.
Ce mouvement-là, c'est bien de vous. Il correspond à un choix qui vient de vous. Et pour des causes qui, vous avez, auxquelles, dans lesquelles vous avez acquiescé à ces causes, pour produire un choix d'appartenance. Et donc vous allez appartenir à une chair, à une humanité qui est rentrée dans, un, dans une communauté ténébreuse. Voilà. Donc, vous allez donc donner successivement, à l'occasion d'un mouvement, vous allez donner les conséquences. Et du coup, à nu, vous avez le choix que vous avez fait, vous le donnez parfaitement, vous demandez pardon, ça veut dire. Puis, mais tout ce qui vous y a amené, qui vient peut-être de la terre, et puis du passé, du temps, tout ce que vous voulez, toutes ces conséquences, vous terrassez, vous tenez aussi. Et enfin, toute chair, tout autre être humain, depuis le début de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, qui a connu, qui connaît encore, bien sûr, ce mouvement, en raison de ce même choix, pour le même type de cause à laquelle il a adhéré. Je prends toute cette humanité-là, et je la plonge de sa ténèbre, je plonge sa ténèbre dans la lumière, et du coup, ça y est. Du coup, je n'appartiens plus à cette ténèbre, et j'ai une nouvelle libération de ma lumière géogénique. Il n'y aura pas cette obstruction dans le futur, dans les jours qui viennent, d'un nouveau mouvement pour... Oh, je dors complètement. Et ce sera dans 10 ans. Oui. Alors, les... Donc, on reprend. Vous n'êtes pas trop fatigué? Donc,
je vais voir le coulé quand même.
Parce que. Je me demande s'il est cuit. Bon, si bien, c'est pas grave. C'est pas grave s'il n'est pas cuit.
Ah, il a bien pris les chats.
Mais t'as pas regardé à l'intérieur.
Apparemment, il y a quelqu'un en bas qui s'en occupe, c'est pas ce que j'ai entendu.
Il y a un écrivain qui s'en occupe.
Oui, je sais, je lui ai demandé. Oui, mais bon. Faut que je fasse confiance.
Donc on reste à 2 ou 3 et vous vous occupez du poulet à 6 ou 7 en bas, d'accord.
Mais c'est pas aujourd'hui qu'on mange juste un peu de pain et de l'eau?
Non, c'est
hier. C'est vendredi.
Aujourd'hui, c'est samedi.
Oh, mais tu te rends compte?
De quoi?
C'est pour manger que du pain et de l'eau.
Alors on mange du pain et de l'eau.
Si vous voulez.
On est dans le choc.
Si vous voulez. Donc je reprends, l'exercice d'initiation paradoxale encourage le patient à faire et à vouloir qu'intervienne ce que précisément il redoute, ce qui va engendrer une inversion de sa tension, toujours la même page, ce qui va engendrer une inversion de son mouvement, il y a une tension, c'est pour ça qu'il y a ce mouvement, donc je vais inverser ce mouvement par le pardon. Ce qui va engendrer une inversion de l'attention, la peur pathogène, est, c'est-à-dire la peur de la lumière, hein, la peur de la lumière, la peur pathogène, est remplacée par le désir paradoxal, ce qui dégonfle l'anxiété anticipatrice. Même si vous ne comprenez rien, ça n'a aucune espèce d'importance, vous allez voir, ça va bien. Il est parlé d'intention paradoxale, anxiété par anticipation, où il est conseillé de vouloir précisément ce que nous appréhendons, ce que nous avons le plus peur dans notre peur pathogène, peur de la lumière, et se résoudre au pire. Et parce que cette réaction involontaire est devenue maintenant l'objet d'un choix, d'une décision, la personne est capable de s'en détacher. Il y a quelque chose, je me détache d'une peur pathogène de la lumière. Et ça se manifeste dans un mouvement paradoxal de ma vie. Alors, on va essayer de voir quel est le mouvement paradoxal de ma vie qui me vient à l'esprit immédiatement grâce à cet exercice. L'exercice va me permettre de voir quel est le blocage qui me vient, le mouvement paradoxal le plus énorme, le plus gros pot, le gros caca, quoi. ça. À chaque fois que je vois, à chaque fois que, type, à chaque fois qu'il voit une femme dans la rue, ça dégouline de la bave ici, là. C'est quand même bizarre, ça. Une autre femme. À chaque fois une femme, elle est dans la rue, à chaque fois que vous voyez un mec, vite elle traverse pour aller de l'autre côté. C'est compulsif. J'ai une cousine qui était comme ça. C'est pas parce que. Vous voyez. Donc, je, pour
une,
voir
une,
que.
Une amie de Gossan qui était vraiment comme ça, il y a un son catastrophique.
Ah mais non, pas sûr. Non, on ne voyons pas du
elle
tout.
Avec
oui, il y a des situations paradoxales, des blocages, c'est vraiment. Alors, donc,
mais
voir quelle.
Elle a demandé de te rendre de faire très attention à elle, de me mettre debout, parce que je ne veux pas voir les hommes. Enfin,
c'est un point incroyable. Oui, mais bon, chacun a un truc de blocage paradoxal. Il est le seul à ne pas le voir, tout le monde le voit. Et ça, elle va le voir. Et les autres, tout le monde le voit. D'accord ?
Alors, là où elle était, au moins, j'ai vu, il n'y a aucune femme.
Oui, mais elle ne le voit pas. Pour elle, c'est normal. D'accord ? Donc, moi, je vais regarder le mien. Je vais regarder le mien. Le mouvement. Le plus gros. La plus grosse pierre sur mon autoroute de la lumière. C'est ça, cet exercice-là. Hein ? Alors, répondre à la question suivante. De quoi avez-vous le plus peur ? De quoi avez-vous le plus peur? Que redoutez-vous? On pose la question autrement. On va tourner sur cette situation paradoxale par différentes questions. 1, 2, 3, 4. Va cerner jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que ça sorte. Hein. Que redoutez-vous le plus souvent? Le plus souvent. Qu'est-ce que je redoute le plus souvent? Qu'est-ce qui vous bloque le plus au point que vous en perdriez la tête à certains moments? Pour quelle idée qui vous survient à l'esprit, d'un seul coup, éprouvez-vous une sorte de panique, ou de tension, ou d'anxiété? Il est arrivé plusieurs fois que vous étiez convaincu que quelque chose de fâcheux, dangereux, était arrivé, puis vérification faite, non, il ne s'était rien passé de tout ce que vous imaginiez. Hein? Là, ici, par exemple, j'ai mis comme un exemple. J'ai peur d'avoir oublié de verrouiller la porte de ma voiture. Course en magasin. Vite, je retourne à ma voiture était bien fermée. Ça m'est arrivé 10 fois, 15 fois.
Ça. Faut de fermer la porte.
Hein?
De fermer la porte.
De fermer la porte de la maison. De la maison.
Oui, de vérifier.
De vérifier. Je reviens, je fais 10 minutes, je reviens, mais elle était fermée.
Elle était fermée.
On dit que c'est une maladie.
Bah, j'ai
toujours entendu ça tous.
Mais on prend cet exemple parce de la porte qui se ferme, de la porte qui s'ouvre, parce que c'est plus facile à comprendre ce que c'est qu'une situation paradoxale, un blocage de situation neurogénique paradoxale. Bon. Il faut y voir clair là-dessus. Hein. Il faut y voir clair. Alors, il y a chacun entre nous, on a une part partagée. Là, voilà, c'est quoi? Chacun d'entre nous, hein. Bon. Quelque chose qui. De quoi est-ce que j'ai le peur? Qu'est-ce qui. Tiens, avant que ça n'arrive, je dis, oh, j'ai peur qu'il m'arrête. J'ai bien peur que. Oui, ça peut être des choses simples comme ça.
On sort des fois, puis on se dit, oh là, est-ce que j'ai bien fermé?
Le cadre. Vous y retournez, il est bien fermé. Hein? Mais est-ce que ça vous est arrivé 10, 15, 20 fois? C'est ça, ça vous revient. Mais ça vous revient. On a tous, cette question-là, elle est pas, c'est pas une question piège, parce que c'est une question simple. Et bien sûr qu'on a, vous voyez quand on pose la question au départ, dès le départ, on se dit, oh, il y a bien quelque chose. Je sais pas quoi, mais je sais qu'il y a. Oh oui, bien sûr qu'il y a quelque chose. Une situation, une anxiété, tac tac, qui revient tout le temps. Ça revient, puis finalement, bon, c'est idiot. Ah, c'est quoi exactement? Et donc, on tourne comme ça, on tourne, on réfléchit, on se dit, mais on essaye. Là, à ce moment-là, commence à être envahi par des invasions de déni, hein, par des invasions de déplacement, par des invasions de cristallisation, par des invasions de pour que pas voir. Bon, mais enfin, quand même. J'ai peur qu'on me voit. Je sais pas comment on regarde. J'ai peur de parler. Il y en a d'autres qui n'ont pas peur de parler. J'ai peur de me taire.
J'ai peur de trop parler aussi.
Non, j'ai peur de me taire.
Des fois, ça échoue.
Alors rajoute. C'est le jour où on s'est dit, faut pas que j'en dise trop.
Que c'est dommage.
J'ai peur de lui dire que je l'aime. J'ai peur de dire à mon enfant que je l'aime. C'est je t'aime. Dire ça à son enfant, mais pas avoir peur de dire à son enfant, je t'aime. J'ai peur. J'ai peur de me réveiller. J'ai peur de me réveiller avant le soleil. Minimum 1, 2, 3 heures après. Mais tellement j'ai peur de me réveiller avant le soleil. J'ai peur du soleil. J'ai peur de ne pas m'endormir. J'invente n'importe quoi. J'ai peur. C'est quoi que vous avez comme. Qu'est-ce qui vous vient comme peur? Moi, je viens d'en donner une quinzaine d'exemples.
Moi, la peur, j'adore.
Non, je ne parle pas des vôtres. Inventez des peurs sur des gens que vous connaissez, sur les vôtres, n'importe quoi. Qu'est-ce qui vous vient comme peur? Hein?
De sortir de chez moi.
J'ai peur de sortir de chez moi. Et pourquoi vous avez peur de sortir de chez
moi? Non, je dis ça comme ça.
Ah, bah d'accord, j'ai pas peur.
Non, si ce n'est pas personnel, c'est difficile.
Si, personnel ou quelque chose d'autre, si, qu'est-ce qui vous vient?
J'ai peur d'être abandonné.
J'ai peur de ne pas être reconnu.
Claustrophobie.
J'ai peur d'être enfermé dans un tombeau.
J'ai peur de ne pas avoir fermé ma porte.
J'ai peur de ne pas avoir fermé ma porte. C'est ça, oui.
J'ai peur toujours des accidents de voiture pour les gens que j'aime, c'est pour moi.
J'ai peur que leur soit arrivé un accident effroyable.
J'ai des petites peurs comme j'ai pas fermé le gaz ou quoi, mais ça c'est tout.
Oui, j'ai peur. Quoi? Vous avez peur de quoi encore? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme peur? J'ai peur de tomber dans l'eau. Pardonnez-moi de me noyer. J'ai peur de me noyer. J'ai peur de l'eau.
C'est cassé la figure dans les escaliers.
Ah, j'ai peur de tomber dans les escaliers, putain, brisser les jambes.
J'ai peur, on le dit souvent, j'ai peur qu'il pleuve, parce qu'on a étendu le linge, c'est tout aussi. Pas chercher
plus. Oui, d'accord, j'ai peur qu'il...
C'est un mot qu'on utilise souvent.
Situation neurogénique retrouvée. Situation neurogénique rétablie à la lumière en même temps. Hein? Oui. Ah, c'est bien, non, mais vous avez fait, c'est sûr. vu ce qu'il a dit? Vous savez ce qu'il a dit? Mais là, non, il avait peur que sa petite ne mange pas.
Voilà, on avait peur de tout.
C'est le petit qu'il fallait manger.
Le petit qui voulait manger.
Le petit, quel petit?
Le petit, jeune.
Oui, c'est ça. Mais t'avais peur que le petit ne mange pas?
Ah oui.
Moi, c'est pas que j'avais peur.
J'aurais dit non, mais toi, tu t'inquiétais.
Ah oui. C'est bien. Non, c'est un bon matin.
Mais il fallait pas t'inquiéter. puisqu'il y avait ta moitié qui s'en occupait.
Il est aimé.
Hein? Alors, de quoi tu as le plus peur? Qu'on trouve que tes peintures sont moches? C'est qu'est-ce qui te fait le plus peur? Qu'est-ce que tu redoutes le plus? Quand tu te réveilles le matin, tu te dis, oh, j'ai peur que...
De voir ce que je vais mettre dans ma peinture. Non.
Moi, c'est plus me détourner de Dieu.
J'ai peur de faire un péché.
Oui. Bien sûr, vous avez un péché. Vous ne voudrez pas revenir sur...
Le matin, je me réveille, j'ai peur...
De marcher.
De marcher?
De marcher.
Quelque part, oui. Le premier pas du matin est difficile. Je l'avoue.
On a peur de vivre sans Dieu.
Oui,
j'ai peur ou appréhender?
J'ai peur qu'on fasse du mal.
Voilà, il y a
hein?
Peur ou appréhender?
C'est la différence.
Je me lève, je me réveille.
Donc ça peut t'appréhender.
Pourquoi est-ce que je n'ai pas envie de me lever, de m'habiller, de partir dans ma journée? C'est ce qui me bloque. J'ai peur qu'on fasse du mal.
De ne pas être aimé.
D'accord, je ne peux pas être aimé, ça c'est autre chose, mais...
J'ai peur toujours de... que j'arrive pas à faire des choses concrètes dans la journée. Je préfère toujours à commencer à faire des choses.
J'ai peur de commencer quelque chose. J'ai peur d'arriver à l'avance.
J'ai peur de ne pas pouvoir réaliser tout ce que j'ai à faire dans la journée. Au niveau temps. Au niveau.
En même temps, je commence pas.
Mais moi, je commence toujours.
Je signale quand même que
j'ai pas resté au lit.
Je te signale que
j'ai peur d'envoyer un courrier.
Oui, elle a beaucoup de travail.
Ah, j'ai peur de faire des fautes d'orthographe. J'ai peur d'écrire parce qu'il y a plein de fautes d'orthographe. J'ai peur qu'on me juge. J'ai peur qu'on me juge à cause de mes fautes d'orthographe.
J'ai peur de ne pas avoir confiance en moi.
J'ai peur de ne pas. Oui mais
donc,
d'accord, mais ça c'est trop
c'est le mal de confiance,
c'est un genre de... Ouais,
dans le concret, tu te lèves le matin et j'ai peur. Quoi, t'as peur
de pas réussir?
Non, ce que je veux dire,
t'as peur de casser
moi,
quoi?
Je veux dire que, admettons, je prends l'exemple, si je peux être plus ou moins un peu confiant, je peux être confiant. Et avoir cette appréhension de me dire, est-ce que cette confiance que j'ai maintenant, je vais l'avoir après en face de la personne que je dois rencontrer pour, je sais pas moi, pour une affaire ou pour autre chose. Donc,
qui a
plus pu être là ou. Donc, c'est surtout en rapport par rapport à. À Dieu.
J'ai peur qu'on ne comprenne pas, quoi.
Mmh. Ouais, peut-être.
J'ai peur de ne pas être reconnu.
Oui, ça d'accord, mais ça c'est trop général.
Peur d'être catholique dans ce monde. D'être catholique.
Peur d'être catholique.
Peut-être ça, ce que je suis dans ce monde.
C'est trop général, ça.
C'est trop général.
J'ai peur.
Non, mais dans la vie au quotidien.
Dans la vie au quotidien, c'est ça. Donc voilà, donc vous voyez, vous repérez. Donc je repose la question, on va reprendre le paragraphe. répondre à la question suivante. De quoi avez-vous le plus peur? Que redoutez-vous le plus souvent? Le plus souvent, voilà le point important. Le plus souvent. Le plus souvent. C'est toujours pareil, mais toujours. Répondre à la question suivante, premièrement. Qu'est-ce qui vous bloque le plus au point que, quelquefois, vous en perdriez la tête à certains moments? Ah, mais... pas possible, c'est possible. Bon. Pour quelle idée qui vous survient à l'esprit d'un seul coup est pour vous une sorte de panique, de tension, d'anxiété? Il est arrivé plusieurs fois que vous étiez convaincu que quelque chose de fâcheux, de dramatique, de dangereux, toujours le même genre de truc, ça t'est arrivé, mais à bien vérifier, non, rien n'est arrivé. Alors, par exemple, effectivement, vous disiez la porte de la maison. La porte de la maison, alors, je m'endors le soir, c'est peut-être pas fermé la porte, les voleurs, ils vont rentrer la nuit, j'ai pas fermé la porte, j'ai pas fermé les volets, j'ai pas fermé la porte du jardin, j'ai pas fermé la porte de la cave, j'ai pas fermé la... Alors, il faut que je ferme tout. C'est-à-dire, mais il y a peut-être la porte de l'arrière-cuisine que j'ai pas fermée. J'ai peur, vite je me relève, je vais refermer tous les volets. J'y passe 2 heures par jour. Alors, si vraiment c'est ça qui prend plus de temps dans tes blocages, dans tes trucs machin, tes préoccupations, alors voilà, tu vas faire l'exercice de déréflexion non-génique, c'est-à-dire, tu vas dire, ben voilà, bon, ben ce soir, je ferme pas la porte d'entrée, je ferme pas la porte du garage, je ferme pas la porte, je vais les voler, je ferme rien, je dors, et puis c'est tout. Et le lendemain matin, je dis, tiens, il n'y a pas eu de voleur.
Nous, c'est ce qu'on avait
fait. Toujours, toujours.
Eh bien, nous, c'est ce qu'on fait. Parce que moi, c'est vrai que monsieur a fait
des pas de moi.
Non, mais d'accord, mais je parle de quelqu'un qui... Ouais. Je parle pas de vous qui vous en fichez.
Non, je m'en fiche pas, j'aime bien que ce soit fermé à clé.
Non, mais je comprends, mais je parle d'une situation néogénique, de blocage néogénique.
C'est sûr, c'est
donc, c'est votre principale anxiété pour le quotidien. Du plus souvent de votre vie quotidienne.
Peur qu'il va pas s'embêter par les garçons.
Oui, mais ça, c'est... Oui. D'accord.
Oui, dans ce cas-là, tu as la voiture, la personne qui n'est pas rentrée...
Qu'elle se laisse, d'accord.
Oui, mais ça, c'est une inquiétude, d'accord, d'amour. Ce n'est pas une situation noogénique, de lumière. Hein. C'est vous.
Ce qui m'intrigue le plus, c'est... Qu'est-ce qui peut bloquer quelqu'un au point d'en perdre la tête? Qu'est-ce qui vous bloque le plus au...
Ça vous intrigue?
Oui, ça m'étonne, quoi.
Ça vous étonne?
Qu'est-ce qu'on peut perdre la tête dans un quand il y a le feu ou une inondation, ou quand on est surpris par un événement. Mais comme ça, posé comme ça...
Quelqu'un qui se tire dans la police.
Ça... C'est pas gênant.
Je regarde la télé, j'ai peur que je parle tranquillement. J'ai quand même peur que ma femme elle descende et tu regardes encore la télé.
J'ai aussi peur de jouer la télé et de peur de. De se dire que si vous nous annoncez comme une nouvelle encore.
Non, mais si je regarde la télé, j'ai peur de ne pas avoir fermé la télé. Ouais, la chance.
Mais d'ailleurs, je me demande si...
C'est de se faire prendre par la grande ligne.
C'est, j'ai peur, je sais pas quoi. J'ai peur de... ça voûte pas, mais bien sûr, mais oui, c'est vrai. Et...
Quand on n'arrive pas à faire le contraire, quand j'ai essayé, je dis pas, quand même, ça c'est quelque chose que tu fais tout le temps.
Le contraire,
il ne faut pas le faire et attendre. Et quand on n'arrive pas, c'est pas peur aussi. Par exemple, quand on a déverrouillé les portes, et quand même dans la nuit, il ne faut pas la fermer, parce qu'on n'arrive pas à faire le complet de l'exercice. Vous
n'arrivez pas.
Bon, pim, ferme toutes les portes, c'est ça que vous avez dit?
Non, je n'ai pas dit ça.
Non.
Ça, c'est un exemple qui n'est pas...
Je ne veux pas d'exemple imaginaire, je veux du concret.
Je vais à la messe à l'heure, c'est ce qu'il dit.
Oui.
Et ne pas arriver à l'heure quand même.
Oui, c'est pour toi, ça.
Oui, je parle pour moi. Oui, j'ai compris ce que tu voulais dire. Donc, de prendre la décision, mais de ne pas l'accomplir.
Mais c'est pas une peur, ça.
C'est un blocage.
Oui, il y a un blocage néogénique, hein. C'est ça. Donc, vous voyez, à un moment donné, vous allez pouvoir écrire ce bout de papier, voilà. Ma peur néogénique, hein, j'en repère une, voilà, j'en étais plusieurs, mais celle-là, c'est net, je l'ai. D'accord ?
Mais je voudrais dire,
le vide, la peur du vide.
Vertige.
Quand t'es en voiture, c'est les...
Les montagnes, oui.
Elle a peur, hein, de ce côté, alors que bon, elle est sur la route, donc, mais elle a cette peur, c'est donc que c'est la prévention.
C'est
le
vertige.
Je sais pas où c'est qu'on peut se situer par rapport à ça.
Oui, je peux très bien aussi avoir peur du vide, bien sûr.
Est-ce qu'on a peur de blesser quelqu'un?
On a des vertiges.
J'ai peur de dire non.
J'ai peur de dire non, j'ai peur de blesser.
Ça, c'est une peur neurogénique, ça, peur de dire non.
Moi aussi.
J'ai peur de dire non.
J'ai peur de dire non.
Moi, j'ai peur de dire non, mais parce que je veux plaire. Donc
Je peux dire oui. Souvent, la peur de dire non, c'est la peur de dire oui en même temps. Si j'ai peur de dire non, c'est
pour
dire
que j'ai peur de dire oui. J'ai pas dit non, hein. J'ai pas dit non. Il a pas dit oui. J'ai pas dit non.
Vas-y, au mariage, j'ai dit oui.
Non, mais c'était avant.
Ah, c'est bien avant.
Je t'ai demandé pour qu'on se marie. J'ai pas dit non.
J'ai pas dit non. C'est sage.
D'accord. Bon. Ah, je vais au supermarché, je laisse la voiture, je vais faire des courses, je ramène des courses dans la voiture, je mets tout ça dans le coffre, sur la banquette arrière, hein, je repars en faire une autre course. Est-ce que là, j'ai pas une petite panique? Si j'ai pas fermé la voiture... Si je n'ai pas fermé la voiture...
Le papier.
Les gens se sont fait condamner parce qu'ils avaient oublié vraiment.
J'ai
eu ça dans le journal, enfin un peu par hasard.
D'accord, mais ça je parle de toi. Je parle de toi quand tu vas, donc je parle laisse les gens dans les journaux. Tu stoppes avec le déplacement, tout ça. C'est toi. Pas le déplacement sur ce qui se passe dans les journaux, toi. Alors tu vas donc au supermarché. tu vas chercher des courses, tu vas dans ta voiture, il y a une sur la banquette, tout ça. Bon, il faut que tu ailles chercher vite un autre. Tu as oublié le pain, tu vas chercher du pain. Et tu sais bien qu'il y a une petite peur neurogénique, une peur, un blocage. Tu dis, attends, si je ferme pas la voiture, il y a quelqu'un qui va la visiter, c'est sûr. Hein. Et puis qu'est-ce que j'ai mis sur la banquette arrière, hein? Ou alors peut-être vous n'avez absolument pas cette peur-là.
Non, je
n'avais pas. Pas du tout cette peur-là. Bon. Quelqu'un aurait cette peur-là. Bon. Hein?
Non, c'est par rapport
moi,
au...
Oui, je laisse pas mon sac n'importe où.
C'est-à-dire que avec les le gens malhonnêtes qui existent maintenant, et on, c'est même plus de la peur, c'est de la prudence. C'est la prudence. Il faut être réaliste.
Il y a des gens qui disent, mais c'est pas grave, je cherche le pain, je reviens.
Oui,
mais d'autres, c'est pas possible, je peux pas aller là. D'ailleurs, ils font un mouvement, ils ont fermé la voiture de toute façon, parce que c'était loin d'eux. Ils vont chercher du pain, et ils vont chercher leur pain. Et quand ils sont en train de chercher du pain, mais attends, mais peut-être que juste le coffre n'était pas fermé. Hein. Ah, ils reviennent, la voiture, le coffre est fermé, bien sûr. Ça, c'est typique d'une situation neurogénique paradoxale. Alors à ce moment-là, si quelqu'un a quelque chose de ce genre, ben très bien. Alors très bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un exercice concret dans les actes pendant les trois jours qui suivent de déréflexion paradoxale. Il va faire exactement ce qu'il doit faire. C'est-à-dire, je vais au supermarché, je vais faire les cours, mais encore. Non. Je vais passer 5 minutes ailleurs et je ferme pas et je reviens et je reprends la voiture. Le mouvement, le choix, les causes. Terminé. Et j'ai enlevé un nouveau blocage neurogénique et je peux être plus facilement dans la lumière.
Il y a des choses sensibles.
J'ai peur de me lever parce qu'on va me faire du mal. J'ai peur de me lever le matin parce que on pourrait me faire du mal.
J'ai pas peur de me lever, mais j'ai peur de certaines personnes qui pourraient me faire du mal.
Tu penses à ça rentrer vite?
Ben oui, pourquoi pas.
Ah, voilà, c'est quand même quelque chose qui...
Bon, c'est des personnes précises. Ah, c'est des personnes précises. Alors, c'est bien.
J'ai un exemple. Quand j'étais petit, j'avais donc tous les soirs, toutes les nuits avant de m'endormir, je voyais le coin du plafond avancer vers moi, vous savez, qui m'écrasait. Mais ça, j'étais vraiment très jeune.
Donc ça, c'est des phobies, ça. C'est des
phobies. Bon, j'avais peur quand même. Chaque soir, j'avais peur de... Mais après, c'est parti, au bout d'un certain temps. Alors, c'était juste pour vous poser la question.
C'est pas neurogénique.
Pardon ?
Une phobie, c'est pas neurogénique.
C'est une peur phobique, oui.
C'est pas neurogénique. Est-ce que c'est autre chose ?
Non. On est donc d'accord. Regardez ce qu'on a dit.
Est-ce qu'elle pose comme question ?
Regardez. On est bloqué. Dans la vie quotidienne, à un moment donné, on est... Attends, c'est vrai ou c'est pas vrai? Hein? S'arrêter, puis attends. Puis. Oh non, finalement, c'est pas vrai. C'est pas la même chose que. D'avoir l'apparition d'une araignée. Hein?
Une araignée, c'est la phobie.
Bon, j'ai peur qu'une araignée vienne me piquer. Oui, mais ça peut être aussi une situation neurogénique. Alors, ça correspond quand même à une peur neurogénique aussi. Bon, alors du coup, dès que c'est possible, dès que je vais demander à quelqu'un de m'aider, on va trouver la. Dans une heure ou deux, vous inquiétez pas, on va trouver une petite araignée.
Non, une petite, c'est pas grave.
Ou une grosse, bon. Une petite grosse araignée. Et puis, on va te. L'autre jour, la dernière session neurogénique qu'on a fait, il y avait une petite. Serpent. Le serpent mange.
Et moi, j'étais persuadée que c'était vrai.
La panique! Serpent.
Comme
ça? Hein?
Il y avait une grosse marmite dessous. On rentrait le soir. Mm-hmm. Et puis, c'est la première. Et le père Patrick sort.
Oui, alors c'est ça. Vipère, donc il y avait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, avant de partir de la session, avait laissé
une
vipère. ouais. comme ça. Il avait mis dans la, il avait mis dans la soupe, dans la soupière. Il y avait la soupe.
Endormi. Elle était aussi.
Donc elle est.
J'ai pas peur.
Elle fait 3.
C'est 15 heures.
C'est 2, donc ça. Ah bon, d'accord, c'est parfait. Donc il avait mis. Et il y avait la petite là, qui était là. Ça, c'est justement ça, c'est propre. Sans parler de la génie, c'est vraiment là. Ce qui est. Elle entre bien. On a sorti la vipère. Et la vipère, elle bouge quand même. Elle est en plastique, c'est un jouet pour enfants. C'est mais tellement
vraiment,
bien imité.
Mais
tellement bien imité que.
Ah, d'accord, c'est une farce.
Alors, elle l'a pas vu. Elle a su, on lui a dit, il y avait une vipère en plastique dans la soupe.
Et
il lui a fallu 24 heures. Non, mais Jean-Baptiste a voulu faire une blague, c'est tout. Je ne sais pas si tu n'allais pas plus loin. Mais du coup, elle s'est rendue compte qu'elle était complètement bloquée. Il lui a fallu 24 heures pour faire l'exercice paradoxal. C'est-à-dire, attention, elle a pleuré. Hein. Et puis le lendemain, elle a accepté de prendre dans ses mains une espèce de paquet. Et il y avait le truc en plastique, ce jouet de gosse dans un gros paquet en plastique. Elle acceptait de le prendre et puis de le regarder, puis de le remettre. Terminé. Terminé. Et depuis, elle fume plus.
Ah
oui. Terminé, elle fume plus. Terminé.
Elle compense. Justement avec la peur du vide. Justement le fait d'avoir le vertige comme ça depuis longtemps, depuis toute petite.
Oui.
Un jour on m'a proposé pour aller si je pouvais avoir un projet de peinture murale, il fallait monter sur un échafaudage. Donc comme j'appréhendais ça, j'ai dit bon ben il faut que j'arrive à justement arriver à dépasser quoi le vertige. Et je suis allée faire du canyoning. Et la première descente, j'ai pleuré, vraiment. Et après ça allait mieux. Et là on m'a emmenée dans un endroit où là il n'y avait plus le choix, j'étais obligée de descendre, sinon c'était un hélicoptère qui venait me chercher. Et la seule chose qui m'a aidée à descendre, c'est que je savais que si je montais en hélicoptère, j'aurais encore plus peur. J'avais pas vu. Mais ce qui est bien, c'est que je sais aujourd'hui que si c'est une question de vie ou de mort, je suis capable de le faire. Voilà. De ce côté-là, il y a une libération. Mais je ne dis pas que c'est encore complètement guéri. Je ne suis pas retournée, mais je sais, voilà, en cas vraiment de danger, je peux le faire. Et c'est vrai que c'est bien de pouvoir aller dans les expériences qui sont plus quoi.
Bon, alors, une fois que j'ai appelé une situation logique paradoxale, deuxièmement, écrire le plus précisément possible l'objet de ma peur pathogène à moi, ce que vous apprendez le plus. Ah. Troisièmement, faites ensuite l'exercice d'initiation paradoxale et consiste en ceci, décidez déjà en vous, mais fermement, de vouloir que cette chose se réalise. Vous redoutez que ça vous arrive, qu'on vous dise qu'on fasse du mal. Ben, je veux qu'il me fasse du mal. Je redoute qu'il me fasse du mal. Eh bien, je décide de vouloir qu'il me fasse du mal. Pas tout. Qu'est-ce que ça peut faire, franchement. Décidez fermement vouloir que cette chose se réalise en acceptant de vous résoudre au pire. Et en choisissant de passer par cet événement avec détermination et de passer au travers quand même.
Comment est-ce qu'elle a fait ?
Moi, je ne suis pas prête à me faire durer dans ma vie. Je ne peux pas.
Quand votre peur pathogène, c'est ça, c'est quand vous viole.
C'est difficile de vouloir qu'il se passe quelque chose qu'on redoute. Comme c'est les accidents de voiture, on ne peut pas dire.
Vous avez peur que le premier homme que vous rencontrez et vous avez peur que un inconnu que vous lui dites bonjour et il croit je sais pas quoi et que du coup il dise ah alors bon voilà bah écoutez voilà bon je veux eh bien je me détermine à dire ben je sais pas j'aurai pas peur la prochaine fois que j'aurai l'occasion avec un étranger je dirai bonjour je ferai un très grand sourire. Et puis je dirais, même à supposer d'ailleurs que ce soit un type qui est un peu déréglé, c'est pas grave. Je suis une femme quand même. Alors, il y a la lumière. Alors, il pourra très bien avoir tout ça, savoir bondir sur lui, puis ça, puis je passe au travers, c'est marrant.
Voilà. Donc, le viol, mais ça peut être le respect du corps, en général. C'est-à-dire, je meurs. Là, ok. Mmh. Et vous ne respectez pas mon corps, c'est pareil. Il n'y a pas de. Je ne sais pas, vous me mettez à la cave ou. Voilà, c'est la même chose. Vous me mettez dans un endroit, n'importe lequel, vous ne respectez pas mon corps, c'est pareil.
J'ai pas envie qu'on me jette, quoi.
Oui, voilà. Mmh. Donc, par rapport à ça, oui.
Alors, je décide fermement dans mon cœur que la prochaine fois que je vois quelqu'un qui est bien solide, style Philippe, etc. Voilà. Ou même pas Patrick, il est gros, 110 kilos. Voilà. Je décide vraiment que, eh ben, je dis, écoutez, voilà, ça vous en est pas, vous me portez dans vos bras et vous me mettez dans mon lit. Et puis vous me couvrez, vous me portez un peu. Vous pouvez prendre cette décision, d'accord? En faisant, voilà, si j'ai à le proposer, je vais le proposer sans peur, et ben il le fera, et puis Patrick, vous savez, moi je le fais, moi je vous prends, je vous amène, je vous donne dans le lit, je vous borde, hein, et puis je vais me coucher, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Et puis il serait prêt à le faire aussi, pour vendre service, il n'y a pas de problème. Donc vous faites un... y a pas de... Donc vous voyez, je fais un exercice de réflexion paradoxale, c'est-à-dire je prends, vous voyez, regardez, troisièmement, je fais l'exercice d'initiation, je décide fermement, dans mon cœur, hein, de vouloir, je veux que cette chose se réalise. Hein. Quand je vais dépendre des bras d'un homme, je vais dépendre des bras, je veux, à l'occasion même, je vais le demander, pourquoi pas. À la première occasion, je suis prise dans les bras, je ne dépends que des bras d'un homme. Et comme j'ai peur qu'il me jette, ça vient peut-être du fait que quand vous étiez gosse, votre cousin qui était aîné vous a pris dans ses bras et puis paf, il vous a jeté par terre. Hein. Comme quelqu'un me dit, c'est vrai, ça arrive, ça, t'es là, je la chaise, assieds-toi là. Et puis, au dernier moment, si je la chaise, bon, après, il y a bien des. J'en veux, j'ai pas pardonné, ça m'a fait mal. Bon, il y a peur anogénique, hein, bon, dans l'employé. Donc voilà, donc je veux, en acceptant de me résoudre au pire, tant pis, s'il me jette, c'est pas grave, je passe au travail, et puis finalement, je m'aperçois qu'il me jette pas. Bon, et quatrièmement, je répète en esprit cette intention paradoxale deux ou trois fois dans la journée, vous voyez ? Et si possible, je réalise l'événement en question dans une démarche concrète jusqu'à ce que cette initiative soit nette et ferme. Exemple, bon là, c'est facile pour la voiture, je laisse volontairement ma voiture non fermée lors d'une course, même si celle-ci doit durer un peu, et je reviens, ayant terminé mes achats, sans presser davantage pour autant. Je ne presse pas du tout. Voilà. Donc cinquièmement, le premier verrou de blocage néogénique de votre vie de lumière une fois libéré, passez le jour suivant à l'exercice de déréflexion. Ah. Voilà, c'est ces choses qui se font sur 3, 4, 5, 6 jours, une semaine. Bon, d'abord, les 2 ou 3 premiers jours, un petit exercice néogénique d'intention paradoxale, et puis après, les 2 derniers jours, un exercice de déréflexion.
Non, on peut faire... ce que je fais toujours, c'est dire à Pim, je vais faire ça. Parce que j'ai peur qu'il pense que je ne le fais pas. En plus, j'ai peur que je ne le fais pas. Et quand je le fais, ça va mieux, je le fais. Alors, en fait, il ne faut pas le dire que je vais le faire. C'est une justification que j'arrive à faire quelque chose.
Accomplir sa tâche.
C'est ça? Oui, d'accomplir sa tâche. Mmh. Ou...
Il a peur de ne pas réaliser, arriver à accomplir sa tâche.
Alors, je vais dire à Pim, en avant, je vais faire ça. Alors, c'est pas nécessaire de le dire, parce que je peux le faire sans lui le dire. Quoi. Il y a toujours cette défense en avance. Mais en même temps, il y a aussi que j'ai du mal à commencer les choses.
C'est pour montrer que tu vas faire ce que... Oui, la justification. Oui. Toujours avoir à se justifier de ce
que je vais faire quelque chose et que je veux quelque chose parce que je sais pas.
C'est toujours partie de des peurs, ça.
Bien sûr, la vie contemplative, tu fais les choses, tu n'as pas besoin de le dire. Ouais. Les gens qui ont des blocages de génie, ils ne pas téléphoner à la paix spirituelle tous les deux fois par jour. Mon père, j'ai envie d'aller au cabinet, est-ce que je peux penser que je peux quoi. Alors, la paix spirituelle, elle dit, au bout de 15 jours, vous ne pouvez pas changer de paix spirituelle parce que tu. Du contemplatif. Non mais c'est pas...
Ça arrive.
Moi je dis toujours aux gens, si vous avez besoin d'un père spirituel, une fois par an, pas plus. Pas plus. Un père spirituel, c'est une fois par an. Alors, on n'a pas besoin qu'on effectivement, vous avez raison, on n'a pas besoin qu'on... Quand on fait quelque chose, regardez les cisterciens, ils font tous leur charge, ils font tous leur travail, et puis personne n'a rien à dire, et ils n'ont pas besoin de dire, vous savez, je vais peut-être faire ça, je n'ai pas permission de faire ça. Sauf si on m'a demandé de le dire. Mais si ça vient de moi parce que j'ai peur qu'en ne le disant pas, je ne le fasse pas, eh bien je ne le dirai pas et je le ferai. Pourquoi pas, bien sûr, je peux faire ça. Déjà en pensée. Une fois, deux fois, trois, quatre, cinq, six fois en pensée, puis après dans l'acte. Mais il faut que ce soit assez gros. C'est mieux que ce soit un peu trop.
Mais ça, c'est tout le temps, ça. Alors c'est important aussi.
Oui, mais l'exercice de l'exercice d'initiation paradoxale, c'est de traverser quelque chose que je ne sais pas traverser. Que je n'ai jamais traversé. Parce que je n'ai jamais fait. J'ai jamais traversé cette angoisse neurogénique, ça va? C'est pas une amélioration du quotidien. Il y a quelque chose, c'est une angoisse, il y a quelque chose qui me panique. Bon.
Et comment on peut situer ça au niveau des. Je prends exemple, sur les miroirs. Peur de casser un miroir par rapport à la superstition. Comment ça peut se. Et bon, je vois, moi, je par exemple à la déchetterie, il y a beaucoup qui ont peur de casser un miroir. Je dis, non, donnez-moi, bing. Si tu es à 300 ou 400, mais c'est pas un problème, n'inquiétez pas. Donc je veux dire, même si c'est une superstition, mais bon, c'est. C'est un truc que tu peux vaincre facilement. Ça.
Oui, oui. C'est ça, tu prends le miroir, tu le casses.
Moi, je remonte, vous voyez, n'ayez pas peur. J'en suis peut-être à 200 ou 300, et je dis, vous voyez, je suis pas encore mort. Voilà, je veux dire, il y a peut-être des.
Oui, mais si tu as dit, écoute, prends le miroir, fais comme moi, tu brises, tu verras, ça ira bien.
Voilà, c'est ce que je fais à la
prochaine fois. Parce que si c'est toi qui le fais, t'as pas besoin de le faire, toi. C'est pas une anxiété neurogénique de toi.
Non, c'est.
Et
la conversion quand même avec Jésus, elle nous invite. C'est vraiment cette invitation-là qu'on a aussi justement d'être libéré de toutes nos peurs, toutes nos appréhensions.
Oui, parce que.
En ambulance, et ben je disais, écoute Seigneur, ta volonté soit faite quoi. Si c'est son heure, c'est son heure. J'abandonne, je m'abandonne à toi quoi. On est quand même habité par cette peur, mais en même temps on est habité aussi par lui quoi. qui nous invite à faire la démarche autrement.
Ah ben, c'est sûr que quand on est chrétien, c'est plus facile. Alors, je dis, ben, j'ai pas peur. Si on va me faire du mal, ben, très bien, on va faire du mal. Qu'est-ce que c'est que le problème? Tu vas pas en mourir, hein, c'est une gifle. Tu vas pas en mourir.
Moi, ce qui me ferait plus peur, c'est pas ce qui va se passer par rapport aux autres, mais ce que moi, je peux faire.
Ah oui, voilà. Moi aussi, j'ai peur de ça. J'ai jamais eu d'arme à feu dans ma maison parce que j'ai peur de tuer quelqu'un. Par mégarde ou par
colère.
Pourquoi? Par peur de l'ami, quelque part.
Par contrôler tes
pulsions. J'ai peur d'avoir un acte.
C'est ça, c'est faire du mal aux autres.
Oui.
Et que les autres aient. Souffre.
Alors, il faut que je dorme. Non,
non, c'est débrouille.
Faut que tu t'entraînes. Déjà, tu as une idée. Que tu as la maison.
Si ça crée en vous une vraie panique, oui.
Non, mais je connaissais quelqu'un qui avait une arme à feu, mais moi, j'ai dit à mon mari aussi, je ne peux pas supporter que voir une arme à feu près de moi. Donc, c'est vrai, c'est pas panique. Donc, je cache les armes à feu. Je ne sais pas si c'est vraiment une panique, mais bon, il y a des choses comme ça, je ne veux pas les voir autour de moi.
Mais
pas seulement une arme à feu, mais des éléments qui peuvent
faire mal.
Voilà, danger, ou le mal, ou le vice, ou je ne veux pas les voir autour de moi. Le serpent, par exemple. Je suis allée chez quelqu'un qui a des enfants, il avait un serpent sur le frigo.
Vrai.
Un jouet.
Mais j'ai hésité. Tout ce qui est image avec, je sais pas moi, des masques.
Diaboliques.
Ça, j'en veux. Alors,
on est tous là.
Oui, bien sûr, mais je parle d'une situation quotidienne qui vous revient souvent.
Oui, mais c'est quotidien. La télévision, les images de mort, le corps.
Eh bien, vous laissez la télévision ouverte avec des. Et puis vous mettez Saint-Michel Archange, Saint-Gabriel Archange sur la télévision. Vous mettez bien des. Voilà, une médaille miraculeuse dessus. Et vous mettez que voilà, toutes les images des méchantes qui passent ici, eh bien, elles rentrent dans la maison et elles repartent dans les ondes. Et elles sont changées en haine du mal dans toutes les maisons où elles rentrent. Intelligent de faire comme ça. Je vous dis, il y a des gens qui ont peur d'arriver à l'avance. C'est pathologique, hein. C'est vraiment pathologique. Parce que c'est l'orgueil. Qu'est-ce qui enténèbre le plus la lumière? C'est l'orgueil. L'orgueil aveugle, tout le monde sait ça. Et quel est le premier degré d'humilité? Le premier coup de pique à l'orgueil? Règle de Saint-Benoît, premier degré d'humilité. Arriver avant l'heure. J'arrive avant l'heure. Eh bien, il y a des, c'est pas loin d'être, c'est pas rare du tout, c'est très fréquent que il y a des personnes qui ne, tu vois là, il y a la messe, bon, il y a, je sais pas, je regarde l'heure, voilà, c'est à 10h. Il est 10h moins 20, il faut 5 minutes pour y aller. 10h moins 20, même 10h moins 10, ça va, 5 minutes pour aller, je peux encore faire, je peux donner un coup de fil. Mais ça me rendrait. C'est pas que ça me rendrait malade d'arriver avant l'heure, c'est pas ça. Mais si j'ai un truc à faire, je le fais de manière à arriver. Juste à l'heure. Le résultat, c'est que je suis toujours en retard. Évidemment. père Gérard Deslauriers, c'est un dominicain, ce soir, hein, c'est, là, il est arrivé à l'office, c'était chronométré, hein, une seconde avant le début de l'office. Il est arrivé, il est dans la salle, une seconde après, l'office commençait. Tous les offices. Depuis 15 ans, c'était comme ça. Alors les novices. C'était pas. Et, le père Abbé, le père Abbé, lui, à l'heure de la clope, c'est père Gérard Deslauriers, était plus précis que la cloche. C'est ordinaire. Alors les novices, Gérard Deslauriers. Il y a peur d'arriver avant.
Il y a plusieurs formes de peur. Il y a une peur négative.
Ce qu'ils ont fait, les novices, alors les novices, ils ont mis une corde dans le cloître. Et puis lui, il arrivait juste toute vitesse dans le cloître. Il est passé le couloir de là. Il se met dans la salle. Donc avant d'arriver au truc, ils ont tendu une corde. Et au moment où le père garde le rire passe, il se casse la figure, donc il est arrivé 7 secondes en retard. Toute la communauté. Le père Gérard est arrivé en retard. Les novices ont fait faire un exercice de déréflexion paradoxale au père Gérard Deslauriers. Comment on est ?
On pourrait faire un film avec ce genre de situation. On pourrait faire un petit truc humoristique avec ce genre de situation.
Bien sûr.
Tu peux imaginer d'autres scènes comme ça en plus.
Oui, mais ça c'est des histoires vraies. C'est que des histoires vraies. Il ouais. Bon, y a déjà beaucoup de gens, énormément de gens j'ai encore 5 minutes, je mets en route un machin, j'ai encore 5 minutes, bah tiens, je vais, voilà. Et ils arrivent vraiment c'est calculé pour arriver au dernier moment, et du coup, ils arrivent toujours 5 minutes, 10 minutes après le début de la messe, c'est systématique. Il y a des gens, moi je connais des gens, à la chaise Dieu, ils arrivent toujours au moins 20 minutes après le début de la messe. 20 minutes, c'est calculé, 20 minutes. Donc 20 minutes. En tout cas, si c'est arrivé 20 minutes avant, l'église, elle demande qu'on soit là une demi-heure avant. Pour la messe. Donc ça veut dire qu'elle a 50 minutes de retard.
Ça, c'est. Comment ça se passe?
Alors, du coup, elle a peur, quoi? Elle a peur de. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette peur-là? Elle a peur. Elle a peur. Bah, elle a peur quoi? Elle a peur d'elle-même, elle a peur de... Elle a peur du... Vous voyez? Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui arrive avant la messe, les cloches? C'est le monde angélique arrive, c'est comme Marie, il y a la vie contemplative, il y a l'incarnation, avant la nativité à Noël, l'entrée du prêtre à l'autel, la nativité. Il y a toute la vie contemplative de Marie, les 9 mois de vie contemplative, et le oui, etc. Donc il y a quand même, avant la messe, il y a quand même tout. Donc j'ai peur de la vie spirituelle. C'est pour ça que j'arrive en retard à la messe. J'ai peur de la vie spirituelle toute simple, contemplative, surnaturelle et lumineuse. Alors, vous voyez, je repère cette peur, je regarde, je vois, je m'aperçois que quand j'arrive à la messe, c'est pas une panique, c'est pas ça, mais c'est systématique.
Mais actuellement, dans les parois, c'est plus grand monde qui pratique la vie contemplative. Je veux dire, moi j'arrive même à l'avance, tout le monde court dans l'église pour préparer ici, pour préparer là. On
vient
me dire bonjour.
Oui, non, d'accord.
Voilà. C'est différent.
Non, mais
vous, je comprends très bien ce que vous voulez dire.
Vous, c'est pas une peur de vous n'avez pas une peur personnelle néogénique d'arriver, d'arriver à l'avance. Donc, moi, je parle de ceux qui ont une peur néogénique d'arriver à l'avance. Donc, il faut qu'ils constatent que ils disent, moi, j'arriverai. Si je considère que je n'arrive pas une demi-heure à l'avance, et je considérerai que j'ai manqué ma vie spirituelle aujourd'hui. Et elle décide ça, cette personne-là, elle le fait résolument. Et elle arrête, brise cette anxiété compulsive. Et elle va le faire, et elle va donc se libérer, et sa vie spirituelle va se libérer. C'est ça. Parce qu'elle aura fait cet exercice d'initiation paradoxale, hein, par rapport à cette compulsivité du retard. Hein. Hein? Donc, c'est à vous de voir, hein, mais ce que vous pouvez faire. Hein? Alors, une fois, ce que vous. C'est du quotidien, je veux dire, c'est des choses qui relèvent du quotidien. Hein? C'est vrai que je reconnais que c'est un peu vrai que quand on vit avec d'autres, les autres voient peut-être plus facilement un blocage neurogénique que vous directement. Pourtant, c'est pas vrai parce que il n'y a que vous qui voyez que il y a des moments où vous êtes là, mais ça peut paniquer, puis. Enfin, c'est pas une vraie panique, c'est pas une peur, c'est comment est-ce qu'on va t'expliquer ça? C'est. Attends, qu'est-ce qui. Et puis vous vérifiez, vous regardez la réalité, mais non, finalement, c'est, mais non, ça va bien. Donc, tu vois, grâce à ces, il n'y a que vous qui le voyez, ça, qu'il y a un mouvement donc de comme c'est marqué ici, hein, de tension, il y a une anxiété. Bon, j'ai peur que la petite disait, j'ai peur moi que un tel ou un tel me fasse du mal. J'en ai un tel ou un tel. Je sais que au boulot je vais rencontrer un tel, une telle et un tel. Bon, probablement. La plupart du temps, c'est sûr, au moins. Bon, elle a peur que ça va se dire mal. Très bien, elle décide qu'elle se lève aujourd'hui, et puis que cette personne et l'autre aussi. Très bien, qu'elle lui jette plein la figure, qu'elle lui fasse du mal, qu'elle la blesse, qu'elle l'injure, très bien. Et très bien, d'accord, je me lève, et puis j'accepte que cette personne me fasse du mal, qu'elle me fasse du mal, c'est pas grave. Très bien, alléluia, puis je passerai au travers. Elle le fait, elle est résolue à ce que la personne lui fasse du mal, elle se lève pour ça, hein, et elle ira au boulot, elle ira au machin, au truc comme ça. Bon, évidemment, personne ne lui fera du mal. Ça ne fait rien. Elle décide de résolument d'y aller. J'ai peur de l'araignée parce que la manière, elle va me piquer. Ça va me faire mal. Ça va me gratter. Ça va me brûler. Mais vas-y, tu vas prendre l'araignée, va. Voilà, je résolument. La prochaine fois, je n'ai rien. C'est décider une fois, deux fois dans ma résolution. Tac, tac, tac. Cinq, six fois dans la journée. Si j'en vois une, c'est décidé. Hein. À l'avance, c'est décidé. Même le soir, je me couche la nuit, le matin. Décider, si je vois une araignée. Tac, je vais. Je viens ici, tu t'arrêtes, viens. Et je vais la mettre ici sur ma main, je vais la poser là. Et puis, je dis, je suis décidé de la prendre et qu'elle me pique. Elle me piquera pas.
Moi, j'étais piquée, je suis allergique.
Vous comprenez pas ce que je dis. Qu'elle te pique ou qu'elle te pique pas, qu'est-ce que ça peut faire? Ça t'enlève. Tu t'en fiches puisque tu t'es décidé à ce qu'elle te pique. De cette pique, elle te pique. Et puis de toute façon, qu'elle te pique une piqûre d'araignée. C'est rien, une piqûre d'araignée, franchement. Hein? Tu mets de l'huile essentielle dessus, puis voilà, tu mets de l'huile. Ah, génial, je t'ai piqué, voyez. Bah, très bien.
Si on écrase,
ah oui, mais je fais une nage, tout est rouge comme ça, tout est brûlé, comme ça, je me fais un pseudo-arrhythme terrible pour que je ne me débarrasserai pas pendant deux ans. Tu vas avoir un cancer de la peau. À cause de l'araignée, je vais avoir un cancer de la peau.
C'est pas une peur, ça c'est une répulsion, l'araignée.
Mais ça fait rien. Je fais un exercice. Je fais un exercice d'intention paradoxale, c'est décider.
De contre-répulsion.
Parce que vous avez des mouvements, vous ne pouvez pas me dire le contraire, nous avons des mouvements.
Je n'ai jamais eu de barbe. C'est le geste d'un barbiste.
Je voyais avec Eva, on va à la mer. Hein? Elle n'a pas peur. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est même pas arrivée à la plage, elle va rentrer habillée, elle va aller là où il y a la papier. Alors qu'il y a des enfants, ils ont un peu peur, ben au moins ils sont un peu plus prudents. Ils vont faire attention. Ils vont pas penser là.
Ils connaissent ses possibilités.
Donc il y a des peurs qui sont quand même positives. Quoi. Mmh. Il y a des choses qui nous permettent aussi d'être un peu prudents.
L'instinct de sécurité, c'est le sens survie. Là. S'il y a danger, voilà. S'il y a un danger dans l'eau.
Mais là, on parle pas de ces peurs-là.
C'est un peu différent.
De la peur qui te paralyse.
Mais écoute, qu'elle soit courageuse, c'est bien.
Mais bon, je...
J'ai peur qu'elle soit courageuse. Mais qu'elle soit courageuse, alléluia.
Elle sait nager. Ah non,
elle savait pas nager. Ben oui, alors, bien sûr, un enfant sait nager. Alors, n'importe quoi. Alors donc.
C'est la personne seule.
C'est moi qui ai peur de l'eau. Mes enfants savent nager.
La question des enfants. Yoram, il a peur des araignées.
Hein?
Yoram, il a peur des araignées.
A peur des araignées.
Alors je lui dis, tu feras mes ces araignées. Pas la même avec le fer, hein, c'est très simple encore, on ne touche pas directement. Mais parce qu'il n'a pas décidé de résoudre ses peurs.
C'est lui qui doit décider. L'exercice, c'est un exercice d'initiation, d'intention, de choix. Et d'initiation paradoxale. Donc c'est lui qui doit décider. C'est pas lui. Ma maman m'a dit de faire ça. C'est lui qui dit je vais faire ça. Donc ne faites pas des exercices d'initiation paradoxale pour les autres. Ah, puisqu'ils ont des problèmes, hein, je vais briser 100 miroirs, 200. Ils auront toujours le problème de leur mouvement de blocage neurogénique.
Tu peux que expliquer l'exercice, c'est ça?
Oui. Tu peux montrer que bon, la peur elle n'est pas justifiée. Quoi. C'est tout. Et de là, après, comme tu dis, ils vont leur donner. Allez-y, aussi, il y en a deux, mais tant qu'à faire avec lui, comme ça, il est content. Ah, merci, mais. Oui. Non, si vous, je comprends.
Non, il faut qu'avant qu'ils aient brisé, il faut qu'ils aient pris un acte de prise de conscience. Et que du coup, ils disent il faut que je le fasse. La prochaine fois, j'aurai l'occasion, je le ferai. Et effectivement, la fois suivante, quand ils ont l'occasion qu'ils le fassent, et ils n'ont plus jamais de problème de superstition. Du coup, ils seront intelligents par rapport à tous les autres problèmes de superstition.
C'est merveilleux.
Ça va? On a tous des mouvements. On a tous ces mouvements. Et dès que ces mouvements, qui ne sont pas des péchés en soi, c'est des mouvements, c'est des bêtises, c'est idiot. C'est des compulsivités, c'est des mouvements. Vous comprenez maintenant?
Qu'est-ce qu'on appelle des... Qu'est-ce qu'on appelle des mêmes?
Hein? Non, je... hein? Ouais. C'est dans mon cinéma, j'ai fait ça, mais...
C'est ce qu'on appelle des mêmes? Des trucs et des trucs. Ça n'a rien à voir avec...
Pardon?
C'est ce qu'on appelle des manies.
Oui, c'est vrai, des manies, des...
Qui font partie de nous et qu'il faut se débarrasser.
Ah bah ouais, ouais. Bah, c'est...
Donc, c'est... Ouais, vous faites raison.
Bah, pas toute la raison, pendant toute la demi-heure de raison. Allez, on est dans une chapelle pourtant, hein, d'accord? Et puis il y a le sac en plastique aussi, vous savez.
C'est que j'ai diminué les
sacs. Ça y est, justification. Et puis, allez, entrez.
C'est vrai que tu as un temps perdu dans ça.
On ne se rend pas compte.
Si on filmait la demi-heure. Tous les mouvements pendant l'oraison une demi-heure. Plus un seul mouvement. Pas le moins mouvement. Sinon, comment est-ce que tu fais pour rentrer dans la quatrième demeure? Pas le moins. Aucun mouvement venant de mon corps, venant de mon... Bon. Ça, c'est toi qui décides. Tu décides de donner ton temps, ton raison à Jésus et à Dieu. Donc, tu décides que tu ne feras pas le moindre mouvement. Une demi-heure, pas le moindre. Difficile. C'est pas difficile. Ah. Et donc, c'est pour ça, vous voyez, comme ça, tu bouges plus. Le seul mouvement, c'est ceux de la lumière. Les salles. Justement, la lumière n'a pas de mouvement. Pendant une demi-heure. Alors là, comme tu viens de communier à Jésus, par exemple, comme tu fais aucun mouvement, tu peux être sûr, pendant la 20 minutes en question, au bout d'une demi-heure, il y a un recueillement, et Saint-Esprit vient, te recueille, et puis tu passes à la cinquième, et le Père peut te prendre et t'amener dans la vie éternelle, là où tu n'es pas, peut te prendre, t'amener dans l'accueil du Paraclet, Esprit Saint, en entier, au-delà des sept ans du Saint-Esprit, là où tu n'es pas, peut te prendre dans la joie éternelle du monde angélique, là où tu n'es pas encore, et t'as pris, t'as mis là-haut, tac, tac, tout. Tu peux passer à la cinquième heure, tu laisses une chance quand même, parce que tu puisses aller dans le cinquième saut d'Apocalypse, dans l'amour du Père. Mais si tu fais un petit mouvement,
c'est encore quelque chose qu'on devrait nous apprendre quand on est petit, quand on a des parents. J'ai rien à dire, mes parents, ils étaient parfaits. Mais voilà, c'est quand on est conscient de le sien. Parce que ça s'apprend.
Oui.
Quand on est enfant, on devrait commencer là. Parce que non, c'est un peu tard. Non, c'est déjà jamais trop tard, mais quand on découvre que c'était aussi facile, c'était facile. Là, il faut se débarrasser.
Mais c'est encore facile.
Oui, oui, mais. On a passé du temps sans le savoir.
Ben maintenant, vous le savez.
Oui. Ça va? Ça va aller?
Bon.
Je trouverai pas une excuse.
Je réajuste ma vision des choses. Très bien. Alors, on continue. Vous voyez? Alors, Exercice d'avenir. Donc ça c'est négatif, hein, l'initiation paradoxale. Maintenant, l'exercice de réflexion, voilà à quoi il va consister. Parce que c'est bien qu'on lise ça ensemble, comme ça après, vous pourrez faire hein, ces exercices-là, que je vais récapituler à la fin en une minute. Donc, entre parenthèses, vous savez, l'exercice de réflexion se fait en raison d'une hyper-intention. C'est-à-dire, vous avez quelquefois, non pas une peur de faire quelque chose, ou qu'une peur que quelque chose arrive, mais au contraire, vous avez le désir, mais alors trop fort que ça arrive. Hein? Hyper-intention. Intention excessive ou désir intense de vouloir jouir du plaisir d'une activité qui fait perdre souvent le pouvoir de générer cette émotion. Où il est déconseillé de vouloir précisément ne plus vouloir jouir ce que nous désirons le plus, et s'attendre à toute autre chose que ce que nous désirons le plus. Et en effet, une observation excessive de soi-même produit souvent un sentiment d'anxiété par attente. Voilà. Alors ça, c'est facile quand on dit... C'est redouter que quelque chose arrive, ça c'est l'initiation paradoxale. Maintenant, la déréflexion, c'est... Tellement. Je me lève, je voudrais tellement que mon enfant se jette dans mes bras, je dis bonjour maman, je t'aime. Et puis, c'est excessif de ça. Et puis, patatras, le gosse il se lève, il dit j'en ai marre. Et puis, je sais pas, j'ai des attentes excessives de ressenti d'amour, tout ça, de... Voyons qu'est-ce qu'ils disent là. Répondre à la question suivante. De quoi avez-vous le plus envie? Ah. Quelle est le plus souvent votre hyper-attente, votre hyper-intention? C'est des manières différentes à chaque fois de poser la question. Quel est l'objet de votre désir qui vous tend le plus dans votre élan pour y parvenir, y arriver, y réussir, au point que vous en perdriez la tête à certains moments? Ah, au point que vous en perdriez la tête à certains moments. Pour quelle activité d'un seul coup éprouvez-vous une sorte de panique, de tension, d'anxiété, à tel point que vous échappez à la joie de son aboutissement? J'ai tellement envie de réussir un plat à la cuisine pour mon mari que du coup tout est brûlé. Pas vous, bien sûr.
Ça, c'est pas un bon exemple.
Oui.
C'est plutôt pour les invités.
Mais oui, non, pour les invités, tout à fait. Non, mais je... Oui. Quelle activité d'un seul coup, à tel point que vous échappez à la joie de son aboutissement. Il est arrivé plusieurs fois que vous vouliez jouir du plaisir de vivre intensément quelque chose, mais que vous avez perdu aussi cette occasion le pouvoir de produire cette émotion. Bref. Vous vous regardiez trop vous-même et une anxiété entravait sur ce point votre aptitude à atteindre le terme, l'aboutissement de votre joie. Exemple, j'ai voulu obtenir un sourire de mon épouse. Je désirais tellement que mon épouse me sourie. La tension en montant en moi a été telle que je suis bafouillé, je me suis pris comme maladroitement. Nerveusement, puis je me donnais l'impression de lui faire perdre son calme, malgré un sourire. Cette déconvenue bizarre m'est arrivée plusieurs fois. Ouais, joli cet exemple-là. Hein. Très joli, c'est vrai, c'est un petit exemple, c'est sympathique.
Moi, ça nous a donné la force d'agir, de faire les choses.
Non, la question n'est pas là. Savoir si c'est grave ou si c'est pas grave. La question n'est pas là. La question est de savoir répondre à la question. Qu'est-ce dans mon quotidien? Quelles sont mes hyper-tensions? Et puis finalement, je le désire tellement que finalement, à cause de ça, à cause de ça, ça foire. À cause, parce que je suis trop tendu vers ça. Je le veux trop.
Absolument.
Et du coup, bah,
je le veux absolument.
Je le veux. Eh oui, je le veux absolument. Mais c'est psy, alors.
C'est provoqué, toi.
Moi, ça me fait trop que tu aies personnellement, j'ai dit la vie des trucs par rapport à comment ils vont le film des trucs. Et quand c'est fini, ben, j'ai une grande déception qui dure pendant 2-3 jours. Je ne sais pas bien. Ça va plus. Ça va plus du tout. Mais bon, je me dis au moins, ça m'a donné le moteur pour terminer.
Oui, ça, pour la création artistique, ça, on a quelque chose de ce genre. Mais pour la vie quotidienne, donc là, hein, d'accord.
Parce que ça manque de spontanéité à force de vouloir que ce soit parfait. C'est ça. Mmh. Non, c'est parce qu'on veut être parfait, je crois. On n'y arrive pas.
Mmh.
Donc ça paralyse. Donc on fait des... On est malade.
Je veux vraiment arriver à convaincre quelqu'un. J'ai tellement envie de le convaincre que du coup, il dit, attends, ne me parle pas, c'est pas la peine. Mais si je n'avais pas cette hypertension pour le convaincre, je serais tranquille. Je parlerais avec lui. Il me dit, c'est lui-même qui me demanderait un conseil. Mais à cause de mon état d'hypertension, je ne peux pas lui donner le conseil.
La jalousie, ça peut...
Non, aussi le manque de confiance.
Hein. La jalousie. Oui. Mais la jalousie, c'est un péché. C'est pas un problème de blocage neurogénique, d'hypertension. Mais peu importe. Mais, derrière une jalousie, il peut y avoir une hypertension.
Oui, parce que c'est à chaque fois qu'il y a une personne, la personne, tout de suite, elle focalise en tant que concours à essayer. Il est sauté dessus, ou elle va sauter dessus, ou alors ceci.
Ça. Mais ça, c'est plutôt une question d'initiation paradoxe, c'est plutôt négatif, d'accord? C'est dire, voilà, disons, je prends vite qui s'est visé ma femme, quand même.
Hein? Non, mais je veux dire, par rapport à la personne qui focalise à chaque fois, donc, qui va y avoir une personne, tout de suite, il aura peur que ceci ou cela.
Ben, c'est peur, donc vous voyez, c'est le premier. Ça.
Maintenant, ah, pardon, excuse-moi.
On est sur le deuxième.
On veut posséder les choses.
On veut trop convaincre, on veut trop atteindre le cœur de quelqu'un. On veut trop provoquer en lui son adhésion. On veut trop, par exemple, le convertir. Ou on veut trop, je sais pas, oui, on veut trop. On réalise la transaction sur la responsable du sacrement. On veut trop que ce soit la perfection absolue. Corps, âme, esprit et grâce surnaturelle et mystique en même temps dans un seul acte.
On devient dictateur.
Non, c'est pas dictateur. Mais comme je. Comme il y a une hypertension, ben du coup. Non, il n'y a pas d'abandon.
Voilà.
Et comme il n'y a pas d'abandon, ben, la transaction sur notre responsable, corps, âme, esprit, fils surnaturel et assomption de la Sainte Trinité, on ne parvient pas au ravissement du dépassement de la joie mutuelle de la vie des deux, ça va. Parce que il n'y a pas d'abandon, une hypertension. Voilà. Donc, je dis, très bien, ben voilà, je vais m'abandonner, et puis ce ne sera pas parfait, et puis c'est tout. Et ben patatras, ça va être justement parfait à ce moment-là.
C'est souvent quand on baisse les bras qu'il se passe quelque chose.
L'hypertension, laisse tomber, laisse la lumière faire, et l'enfant, la vie spirituelle, c'est quelque chose de simple. Ça relève de. Vous avez les 14 vertus. De la lumière, hein? L'enfance, l'abandon, l'humilité, la transparence, etc., la virginité, tout ça, d'accord? La confiance, l'espérance.
On est toujours tous tentés pour vouloir quelque chose,
Et puis avec Dieu, justement, à chaque fois, on lâche prise, on dit, bon, mais écoute, ça sera ta volonté.
Ah, mais non, mais avec Dieu, c'est plus facile, avec Jésus, c'est plus facile. Oui. C'est évident, mais là, ça, c'est pour tout le monde, là. Oui. Hein? Donc, c'est. Là, on repère des. C'est pour ça que si, quand vous ferez des exercices, si un jour vous ferez un jour, vous pouvez faire ce genre de trucs à 3-4 personnes. Hein? Un petit peu là, bon, ben, on prend un crayon, on prend un papier, tu vois, là, on marque ça. Donc, au moins, c'est ce que j'ai, moi, ce que j'essaie ici, aujourd'hui, c'est de vous expliquer hein, ce que ça veut dire, hein, le mot. Hein? Qu'on ne confonde pas une analyse psychologique avec. Avec des exercices, des réflexions neurogéniques, quand même. Hein. Donc, parce que ce sont des mouvements, ça, qui viennent de nous. Je sais que c'est la vérité. Je sais que c'est la vérité. En plus, c'est vrai que c'est la vérité. C'est la vérité de l'Église, c'est la vérité de Jésus, c'est la vérité de ce que tu veux. Donc, alors, mais c'est moi qui vais le. C'est moi qui vais le. Non, doucement. Voilà, alors vous voyez, donc pour quelle activité d'un seul coup éprouvez-vous une sorte de panique, tension, d'anxiété à point. Donc écrire le plus précisément possible l'objet de cette intention excessive, ce que vous désirez le plus. Troisièmement, faites ensuite l'exercice de réflexion. Il consiste en ceci. Décidez fermement de ne plus vouloir jouir de ce que vous désirez le plus. En vous attendant à toute autre chose, et en choisissant de jouir de toute autre chose que ce que vous désirez jouir le plus. Répétez en esprit cette intention paradoxale deux ou trois fois dans la journée. Si possible, réalisez la chose dans une démarche concrète, si l'occasion vous est présentée, jusqu'à ce que cette tension excessive de désir disparaissent. Et le second verrou de blocage neurogénique de votre vie de lumière une fois libéré, passez le jour suivant à l'étape 3 de notre agapé pneumato surnaturel qui en fait est l'étape 4 là-dessus. Voilà, donc vous avez, dans ce qu'on a vu ce matin, mais on est déjà l'après-midi, j'ai peur, dans ce qu'on a vu ce matin, c'est trois. C'est cette troisième étape, donc se dégager, première étape, des conséquences négatives de nos idées fixes, deuxième étape, de ces compulsivités donc qui viennent des enfermements psy, plutôt des conséquences négatives de la conscience de culpabilité, ce qu'on a vu hier, et là aujourd'hui, on a saisi, oui, cette lumière. On a saisi cette lumière qui est là. Hein. On a saisi notre intellect à Jean, on a saisi, on l'a vu, oui, ça y est. Au moins sur eux, voilà. L'anamnèse a permis de voir, voilà, ça y est, je vois ce que c'est. Je sais. Je ne comprends rien, mais je vois. Hein. Alors, c'est ça que je veux. Et pour voir là, il y a des choses qui font que je peux pas pénétrer et y habiter entièrement, complètement, librement et uniquement. Si je puis dire, pourquoi? Parce que, j'ai des blocages, j'ai des blocages. Ces blocages, je les repère en raison de mouvements. J'ai des montées comme ça d'angoisse, j'ai des montées de haine, j'ai des montées de colère, j'ai des montées de méchanceté, d'accusations, et tout ça, de dépression, tout ce que vous voulez. Enfin, j'ai des mouvements intérieurs qui sont pas normaux, quoi. Hein. J'ai monté de révolte aussi, hein. Et tout ça. Donc, j'ai des mouvements. Voilà. Dans ces mouvements, il faut que j'apprenne à faire systématiquement, au moins une fois par jour, la prise d'un mouvement, de le donner dans cette lumière, pour l'enfoncer dans la lumière née de la lumière, et à partir de là, prendre ce qui est le choix qui correspond à la racine des conséquences qui font ce mouvement. Et je donne ma faute et le choix qui date d'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, ou 6 mois. j'en sais rien. Quelquefois, je le sais. Mais je donne donc le choix qui est à l'origine de ce mouvement et je le mets dans cette lumière-là, hein, et qui pénètre dans, comme de manière contemplative de la lumière née de la lumière. Je la donne parfaitement, puis aussi dans toutes les causes de mon choix. Je déracine, comme je déracine, vous savez, la mauvaise ronce, je donne la ronce, puis du coup je prends toutes les racines, alors les racines elles sont. Elles vont sur 7, 10, 15 mètres. Et je donne donc les causes. Donc cause, choix, conséquence. Vous vous rappellerez. Cause, choix, conséquence. Et donc je donne donc toutes les causes. Et je les mets dans cette lumière, avec cette lumière, de mon intellect agent, d'accord, de ma vision, de mon savoir, de ma connaissance du péché, du mal, du. La ténèbre, je le donne et je le plonge. C'est ça, pardonner. Je le donne parfaitement pardonner dans la lumière née de la lumière. Alors Jésus, nous, on sait que c'est Jésus. C'est Jésus. Je donne dans Jésus. Jésus le prend. Il le prend. Je lui donne. Il le prend. Le pardon est là. Mais du coup, je prends en quatrième, et c'est peut-être ça le plus important qu'on oublie tout le temps, je prends aussi toute chair dans l'humanité qui est victime de ce même mouvement pour le même type de péché de soi et en raison des mêmes types de causes qui ont amené à ça. C'est pas la même chose les enracinements d'une ronce et les enracinements de l'ivraie dans un champ de blé et les ors, c'est pas les mêmes choses, vous voyez. Donc je prends à ce moment-là, je ne fais plus partie et du coup et en même temps j'ai enlevé quelque chose à toute chair de l'humanité, depuis Adam et Ève, quelque chose de cet enfermement dans la ténèbre. Même s'ils sont dans la vision béatifique dans leur âme, leur corps et leur chair est encore dans la terre et elle doit se préparer, c'est le corps qui est spirituel, hein. N'oubliez jamais ça. Et donc, quelque chose, quand je fais ça, qui fait que le corps spirituel, le corps, oui, le corps humain, qui est dans la poussière, qui s'est décomposé, se déracine par rapport à quelque chose qui est ténébreux et se dispose petit à petit à la résurrection de la chair. Toute chair, voilà. Et à ce moment-là, s'il y a toute chair, vous verrez que si vous faites ça, ce mouvement-là, vous verrez qu'il ne sera plus en vous. Parce que les gens disent, oh là là, ça me revient. Je dis pardon, Seigneur, et puis ça me revient. Et puis pardon. Et puis ça me revient. Donc, cause, choix, conséquence, ça ne me revient plus. Premier exercice. Deuxième exercice, les exercices d'initiation paradoxale. C'est de voir que. Là, au fond, je ne suis pas dans la vérité, je ne suis pas dans le réel. C'est exagéré, mon truc, là. Ma crainte, ma peur, tout ça, il y a quelque chose de, quand même, qui n'est pas raisonnable. C'est un peu trop exagéré. Hein. J'ai peur que si je ne bouge pas, on va croire que je suis mort. J'ai peur que si je ne parle pas, on va croire que je ne les aime pas.
Non, on n'en est plus là quand on a tout expliqué.
Ah, bon.
Quand on a réussi son coup.
Ah bah oui. Bon, et puis je fais ensuite un exercice de déréflexion. Ça, c'est d'hypertension pour réussir, pour atteindre son but, pour être un saint, pour que l'autre puisse comprendre ce que j'ai compris, pour que. Etc. etc. Cette hypertension, stop, lâche tout. S'il ne comprend pas, alléluia. Et je fais ces trois. Vous voyez, ces trois exercices quand même différents. Hein. Et à ce moment-là, ici, je fais ça, vous avez déglingué la troisième couche qui empêche votre liberté contemplative dans la lumière, votre vie d'être intelligente spirituellement et humainement parlant. D'accord. Alors, du coup, vous êtes prêts pour entrer dans le quatrième et le cinquième exercice de libération pneumatosonaturelle de votre intelligence contemplative. Et ça, c'est après. C'est déjà pas mal d'essayer de commencer. D'accord ? Voilà. Ça va, c'est pas trop compliqué. C'est pas trop compliqué. Il restera cet après-midi, demain dimanche matin, demain et dimanche après-midi pour la mémoire. Oui.
Ce soir, combien en fin d'après-midi, oui.
Pourquoi c'est quelle heure ?
Il est
4h. Eh bien, on va manger maintenant. Comme ça, on prendra une heure avant la messe. Et comme ça, on n'aura pas besoin de souper.
Voilà, très bien. Comme ça, moi, je ne vais pas à la cuisine.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, alors donc on a dit qu'on faisait quoi ? Qu'on allait manger.
Oui.